vous écoutez.
Pourquoi pas?
Bah parce que tu vas pas y jouer.
Mathieu, il a pas besoin, il a pas besoin de connaître les règles pour nous les expliquer. Hein.
Hier ou avant.
Pourquoi ça serait ça qu'il a dit?
Moi, je suis toujours à la recherche de mon caca perdu.
Comment ça va, mon équipe, à moi?
Nous en sommes nos amis. Il faut les aimer aussi.
David, Benji et Mathieu vous présentent.
Bonjour, tu.
Bonjour, tu.
Bonjour, tu.
Bonjour, tu.
Il y a des choses qu'on rejette. Le racisme, il y a.
Broom service.
Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu, le podcast des jeux de société. On est donc à l'épisode 6 de la saison 6. Et puis, à 6 minutes, ça va faire 6-6-6.
Oh!
Je trouve pas... C'est les métalleux qui vont nous dire. Plus tard dans l'épisode, donc cet épisode 6, c'est un épisode qui est dédié pour l'UDESCO. On a enregistré sur place, donc c'était il y a maintenant 4 jours, je crois.
Eh ben, ça dépend de la voix de Maski, vas-y, parle.
Ouais, ça va mieux.
Donc, à partir des expériences de la semaine, vous allez nous entendre sur le festival. On va vous parler de jeux qu'on a essayé avant le festival et pendant le festival. Et puis, on aura aussi une interview avec les auteurs de Nekojima.
Exactement.
Parce qu'ils ont gagné le Swiss Gamer Award.
Famille.
Pour jeu de famille. Donc, on aura une petite interview avec eux. Et puis, on aura le retour de Mims aussi. Un petit segment.
Oui.
On parle avec Mims. Avant de vous laisser la parole, parce que je sais que vous allez la garder pendant longtemps, 250 000 écoutes du podcast.
Ouh. Ah oui,
ça
monte
marche
pas, ouais.
Bien. Hein,
merci beaucoup à vous, nous suivre.
Merci. Quel honneur.
Cette aventure.
Quel direction privilège. Le million maintenant, on s'arrête pas aux 500 000, c'est le million.
Quel courage.
Qu'est-ce qu'on fait au million?
C'est clair.
Je sais pas.
Mais déjà, toi, t'avais dit qu'à 100 000, tu te rasais les cheveux,
oui.
Tu l'as pas fait, donc.
C'était les cheveux?
Il fallait, à 100 000, il fallait nous sortir une vidéo de toi qui fait du métal, puis tu l'as jamais
fait. Ah oui, c'est vrai!
Mais j'ai pas la vidéo, j'ai les photos. J'ai pas la vidéo. Ok.
À 300 000 abonnés, je vais sortir mon album de rap. Donc, du coup, on va arrêter.
N'écoutez plus.
C'est ça.
N'écoutez plus.
Pitié.
Le podcast va mourir sur 290 000 écoutes. Et puis, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, non, mais merci beaucoup à vous. Ça nous fait toujours plaisir. Je trouve ça quand même fou. C'est quand même un gros nombre quand tu y penses vraiment, là, de dire qu'ils nous écoutent, nous, dans cette pièce, avec
ouais,
deux, trois verres
de
vin.
À dire nos conneries.
Dire
des conneries. Tout à fait.
C'est quand même grave.
Merci.
Quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Comment ça va, Benji?
Écoute, très bien. Je suis très heureux d'être là, comme toujours, avec vous. Très heureux d'avoir participé cette journée à l'UDESCO samedi. C'est vrai que c'est
encore
toujours cool.
Ouais.
C'est toujours
année.
Cool d'avoir une journée entière où on peut jouer, en fait, hein,
ouais.
Tout simplement.
Ou t'as pas tes enfants, quoi.
C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Quel enfoiré. Non, effectivement.
David, toi, ça va? À part la voix?
Bah oui, écoute, je me remets difficilement, comme vous me le rappelez souvent, à mon âge, c'est le genre d'expérience qui sont pas faciles, c'est vrai, peu
si
dormi.
Si t'avais mon âge, ça irait sûrement prendre la
main. Ouais, sûrement. Peu dormi, beaucoup parlé et fort, ouais. Parce que dans un festival, forcément, quand en plus on explique des règles, il faut hausser la voix.
Ouais.
Et puis, en plus, la crève par-dessus tout ça, donc, voilà.
Rien ne va, mon bon monsieur.
En fin de journée, c'est vrai que le dernier jeu que j'ai expliqué qui était Five Tribes, je l'ai fait en ASMR.
Ah oui.
Donc j'ai chuchoté ces règles, il faut mettre le petit peu. Et c'était drôle parce que la personne à qui j'ai expliqué ces règles me répondait en chuchotant.
Ah oui.
Mais sans le vouloir.
On préfère toutes les pistes comme ça.
Ouais. Et je m'étais rendu compte en fait que la seule chose que je pouvais faire et sortir du son, c'était siffler.
Oui.
Ça marche sans problème quand t'as plus de voix. Ça marche toujours. Ouais, alors je sifflotais.
Note bien qu'il y a une certaine logique anatomique, hein. Mais
oui, mais bon, ça c'est le médecin qui parle.
On va s'arrêter
pour moi,
à ces petits détails.
Voilà, tout à fait. Mais un très bon festival, l'UDESCO.
Ouais.
Donc on risque de reparler, même si la suite de l'épisode, le festival n'est pas fini. Mais là, on a déjà les chiffres.
C'est
donc
clair.
On pourra en parler dans les news.
Mais oui, bien sûr.
Qui ne devraient pas trop tarder, d'ailleurs.
Qui vont arriver à un certain moment, mais avant ça.
Ah, c'est ça, mon sous peu, comme on dit.
Oui, c'est ça. Mais dans deux secondes. Mais je voulais juste d'abord.
Oui.
Parce que tu viens de parler de ta crève. Alors, seulement au Québec, c'est une grippe. Juste qu'on soit clair.
Non, mais grippe, c'est quelque chose de, voilà.
Oui, mais alors, une crève.
Spécifique.
Alors, une crève, ça veut rien dire au Québec.
Une crève, c'est un virus hivernal quelconque, quel qu'il soit.
Ouais. Voilà. Donc, je me sentais pas très bien, j'étais malade.
Exactement.
Un enrhumage, quoi.
Et maintenant, place aux news de David.
Vous
Voilà, c'est la partie préférée de l'épisode parce que là Benji vient de partir.
Oui. Je crois qu'il y a une il est piqué ce soir à son métier,
il
donc
est de garde,
il doit,
donc
ouais, il est de garde, il doit répondre à des sollicitations téléphoniques et il vient de s'absenter, donc on va en profiter
c'est beaucoup
pour démarrer les news direct, ouais.
C'est quand même chouette.
Et puis je pense qu'il reviendra pour ses news KS et puis nous on sortira à ce moment-là.
Mais oui.
Alors la news, la première news concerne justement l'UDESCO qui est pour nous aujourd'hui terminée. Donc ils ont frôlé les 10 000 participants, hein, 9 700 pour être précis. C'est le deuxième meilleur résultat après 2019 où ils avaient tout juste dépassé les 10 000.
Ouais.
Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Un joli succès. Alors c'est vrai que si on recherche aujourd'hui l'UDESCO sur Google, on tombe plutôt sur des articles qui parlent d'un arrêt du festival une heure avant l'heure prévue à cause de... Si vous voulez, le bâtiment principal de l'UDESCO, à côté, il y a un cinéma qui participait plus ou moins à l'UDESCO, j'ai pas très bien compris, mais et à voir, il y a un faux plafond qui s'est partiellement effondré dans l'une des salles de cinéma, donc au niveau sécuritaire, ils ont préféré arrêter et faire évacuer tout le monde dans le bâtiment.
Ils prennent cher à la chaux de fond, c'est un.
Donc là, ils ont pris cher. C'est vrai, moi je voulais avoir les chiffres de la fin, puis en fait tous les articles qui sortaient en premier, c'était tout lié à ça. Alors
bien sûr. Ouais.
Personnellement, avec le musée suisse du jeu et les éditeurs, on était dans un autre bâtiment. Alors ça, on n'y a rien vu. Hein. Ouais. Moi, je l'ai appris le lendemain quand on m'a partagé ça. Donc, rien vu, rien entendu. Donc, c'était vraiment pas grand-chose. À l'UDESCO, il y a un record du monde. Battu, et il était déjà d'ailleurs détenu par l'UDESCO. C'est le record du monde de Bill Bocquet. Et oui, avec 12... Non, c'est pas vrai. Le record était de 12 417 coups en 24 heures, c'est-à-dire réussir, tu sais, à faire tomber la boule sur le truc, là.
Mais par la même personne ?
Non. En fait, ils étaient plusieurs, quand même. Donc, c'était établi en 2012 à l'UDESCO, et cette année, ils en ont fait 34 281, donc quasiment le triple en 24 heures. Donc moi je sais pas du tout où ça s'est passé.
Ouais.
En même temps, je les aurais pas beaucoup aidés parce que moi et Bill Bocquet, je suis nul. J'aurais pas voulu être la personne et que clic clic clic. On parlait du
bienvenue
Benji.
Merci.
Du record du monde de Bill Bocquet. T'es pas allé lancer le Bill Bocquet toi.
Non, je suis pas allé lancer le Bill Bocquet, mais j'ai vu effectivement que le record du monde avait été battu et que le record précédent était détenu par
l'UDESCO
déjà. Tout à fait.
Voilà, mais près de 3 fois plus. Donc là je pense qu'ils sont pas mal. Donc là on a donné quelques chiffres de l'UDESCO. Eh bien, il y a aussi les chiffres du FIGE, du Festival de Cannes, dont on n'a pas parlé par rapport aux chiffres. Donc là, il y a eu 85 000 festivaliers. Donc quand même un peu plus, mais c'est bien normal, parce que ça reste quand même un des tout gros festivals au monde. Exactement. 5 000 pros, 500 jeux, 350 journalistes et influenceurs, et donc nous.
Ouais.
Bien entendu.
Surtout nous donne
rendez-vous en 2025 du 28 février au 2 mars. Donc pour moi c'était une bonne nouvelle parce que ça ne tombait pas sur les vacances scolaires. Donc je n'ai pas devoir amputer quelques journées.
Ça tombe jamais sur les vacances scolaires. La première fois
où on est allé, j'étais redescendu des vacances. Pas. Exactement. Donc voilà pour le FIGE. Et sinon, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a un article du magazine Fortune qui mentionne que un projet sur 5 de la plateforme Kickstarter serait une fraude.
Ouh.
Par contre, on ignore s'il y a des projets
défendu Darkest Dungeon pour dire ça.
Il n'y a pas de mention sur les projets de jeux de société, donc peut-être que les projets de jeux de société sont un peu préservés ou pas.
Je pensais que c'était que
projet
les jeux
globalement.
De
non.
Mais il y a eu un article qui est paru la semaine dernière sur cette question.
Je pense qu'il y a quelqu'un a rebondi là-dessus.
Je me demande si c'est pas chez Gus & Co d'ailleurs, mais ils ont évoqué de mémoire, j'ai un chiffre comme genre 18% dans les jeux de société.
OK.
Alors là c'est de mémoire, donc
18%,
ça se trouve
ça serait exactement 1 sur 5, donc
alors pas exactement du coup puisque
à contrôler. Allez sur Gus & Co pour contrôler comme ça.
Regardez ça de suite live.
J'ai pas regardé, c'est bien.
Déjà live control, non live
non,
voilà.
Ouais, c'est bien. Mais est-ce que j'enchaîne quand même parce qu'on va pas
oui,
trop.
Oui, bien sûr. Voilà. Je prendrai grand plaisir.
On va parler
quelques secondes.
Sinon, mon Benji.
Oui, mon David.
Voidfall.
Ah.
Qu'est-ce qu'il a gagné?
Le EGA.
EGA, qui est?
Ah, mais on en a pas déjà parlé, ça.
Expert Game Award. Bien sûr. Bravo à Voidfall qui a remporté.
J'ai félicité David Turgzy sur Facebook.
Tout à fait.
Il a liké mon comment.
Qui est rendu, un de tes meilleurs amis, non?
Je l'appelle David.
David. Et justement, je l'avais dans ma news, ça. Parce que c'était le top de cette news. C'était le fait que, bien entendu, tu l'avais félicité. sans oublier bien sûr de le mentionner, histoire d'être sûr qu'il le voit.
Bien sûr.
Remercier, donc sans doute une petite érection ludique de ta part, mon ami Benji.
En plus, j'ai vu que t'avais liké mon comment aujourd'hui.
Ah bah moi, quand je prépare les news, tu sais, j'ai vu ça, puis je vois juste en dessous Benji, je dis bon bah comme d'hab, de toute façon toi c'est soit t'as liké tout ce que je vois, soit tu les commentes.
Mesdames et messieurs,
vas-y.
J'avais tout à fait raison. C'est un article de Gus & Co, qui sont nos amis de Genève, dont on cite régulièrement les articles de bonne qualité, et qui cite effectivement 18% d'arnaques. Ça, c'est pour les jeux de société.
Ok. Bon, bah ça fait 1 sur 5 aussi.
Ça fait quasiment 1 sur 5, mais pas tout à fait.
Est-ce que c'est un raccourci? Nous ne le saurons pas. Nous ne le saurons jamais. Prochaine news. La NASA.
Ça, c'est pas que c'est une news pour Benji, ça.
La NASA se lance dans le jeu de rôle en proposant gratuitement au téléchargement The Lost Universe, compatible avec Donjons et Dragons. Et qu'est-ce que The Lost Universe? Eh bien, c'est un jeu
C'est bientôt le 1er avril, il faut faire gaffe.
Ouais, faut faire gaffe. Mais annoncé d'une durée de 4 heures, et puis qui sera très riche en images, car des images de ce jeu de rôle sont issues de leur télescope spatial Hubble. Alors moi, ça me disait pas grand-chose, mais je vois que toi, Team Space...
Mais bien sûr,
Hubble.
Voilà. Donc voilà, aussi, et c'est vrai que...
C'est quasiment Team Nature. Hein,
c'est vrai que ça a fait beaucoup parler, il y a une volonté aussi que ça devienne un support pour les professeurs de sciences, par exemple. Donc tant mieux si ça peut amener des gens au jeu de rôle, et pourquoi pas après au jeu de société grâce à la NASA.
C'est presque Team Histoire, du coup. Vu que c'est...
Ça pourrait.
Mariage des trois teams.
Et vu qu'on parle de Donjons et Dragons,
Personne n'en parle, parce que
c'était compatible Donjons et Dragons, si t'écoutais un peu, si t'arrêtais de jouer sur ton téléphone, là. pour fêter leurs 50 ans, parce que c'est leurs 50 ans cette année.
À la NASA?
Non, à Donjons et Dragons.
Ah, pardon.
Eh bien, il y a une boîte Lego Donjons et Dragons qui va être mise en vente dès le 4 avril.
De ce qu'on a vu à Cannes, c'est pas la fin de Lego. Hein. On n'a pas fini d'en entendre parler.
Mais c'est assez drôle.
Et là,
une renaissance Lego, quoi.
Cette boîte comprendra 3745 pièces, pour être précis, à un prix aux alentours de 360 €.
Avec
un gros dragon.
Pas du tout. J'en ai aucune idée.
C'est beaucoup, 3000 pièces.
C'est pas mal quand même.
En tout cas, 350 € ça commence à pas être beaucoup les Lego, parce que là ils sortent des trucs à 1000 balles.
Donc il y a un gros dragon rouge et il y a que 5 personnages.
Il y a des Lego à 1000 balles?
Ah ben bien sûr. Si tu veux le Faucon Millennium gigantesque, là il est à 1000 balles. C'est mon rêve. Si tu veux me faire un cadeau un jour, Mathieu, c'est moi j'en rêve.
Tu t'es fait David Sorgzi, toi tu m'as fait quoi? Rien. Hein. Ouais, c'est ça.
On était dans la Team Space et on revient déjà dans la Team Space. Eh oui, mon Benji, c'est tout pour toi aujourd'hui. Le YouTuber américain de Board and Savior a créé un jeu Star Wars 4 en 1. T'as vu ça? T'as pas vu ça? 4 en 1. C'est-à-dire que tu joues à Star Wars Rebellion.
J'ai compris que 4 en main.
Oui, j'ai compris ce que t'avais compris. Du coup, j'essaie de m'imaginer ce que ça pouvait vouloir dire 4 en main.
T'as dit 4 films dans un
jeu. Des jeux. 4 en 1. Donc, tu joues à Star Wars Rebellion, puis, à chaque combat qui va se passer au sol, tu vas devoir faire une partie de Star Wars Légion.
Oh, c'est quoi le Légion?
C'est un autre jeu de Star Wars.
Mais.
Il a mixé 4 jeux Star Wars pour en faire qu'un seul, si tu veux bien. Et dès qu'il y a des combats spatiaux, il faudra jouer à Star Wars Armada.
C'est ce dont nous a parlé Simon d'ailleurs.
Et quand des escadrons de chasseurs...
Non, c'est Penelope.
Ah oui, c'est juste.
Et quand des escadrons de chasseurs vont arriver dans Armada, il va falloir jouer à X-Wing.
Ah putain.
Donc il estime qu'une partie complète pourrait durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc bon courage à ceux qui veulent se lancer là-dessus.
J'aime le concept.
Mais voilà, j'ai trouvé cette news assez marrante. Et donc... non, j'allais dire puisqu'on est dans les jeux vidéo, mais pas du tout, on n'y est
absolument
pas. Mais on va y arriver là, on va y arriver parce qu'il y a un nouveau jeu vidéo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Balatro.
Oui,
c'est un jeu type roguelite, inspiré du poker et qui intègre du deck building dans son jeu. Et puis qui est disponible sur les plateformes Steam, Switch, PlayStation et Xbox. Et puis il y a déjà plus de 500 000 joueurs alors qu'il est sorti le 20 février. Ouais. 1800 années de jeu faites par ces 500 000 joueurs. J'ai pas essayé de compter combien ça représentait par joueur. Et paraît-il qu'il est totalement addictif. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez incroyable.
Comme beaucoup de ces roguelites. En fait, cette idée que tu peux vite recommencer une partie.
Mais c'est plus là, on est. Plateforme, tu as dit, excuse-moi.
Alors il y a Steam, Switch, sauf PlayStation, téléphone. Xbox. Il n'y a pas le mobile, mais il paraît que c'est très demandé, donc il y a bien des chances que ça arrive.
J'ai lu une nouvelle qui disait que ça s'en vient.
Et c'est vrai que moi,
Balatro.
Et ce qui est marrant, c'est que moi, en fait, quand j'en ai entendu parler, c'est par des articles qui mentionnaient qu'ils avaient été dépubliés de plusieurs catalogues de jeux, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est 3+. Mais comme
ça veut dire quoi, 3+
3 ans et plus.
Ah pardon.
Donc vraiment tout public, et en fait tout d'un coup il est passé dans la catégorie 18+ jeu d'argent, parce qu'en fait il se base sur le poker,
ouais,
et pourtant il n'y a pas du tout de jeu d'argent dans le jeu. Donc en fait 18+, bah ça a fait que Switch et d'autres plateformes l'ont déréférencé. Donc là je l'ai vu hier sur Switch, je l'ai téléchargé. Donc voilà, le problème a été réglé. Je ne l'ai pas encore testé. Non, je l'ai téléchargé hier, mais je l'ai pas encore testé. Et ça a l'air plutôt sympa. Et donc, on va voir ce que ça va donner.
Et donc, on peut s'attendre à ce que dans 2 ans, il y ait une version jeu de société qui va sortir de Balatro.
Oui, alors là, on est vraiment, après, ça reste vraiment un jeu de société. Donc, c'est vrai qu'il suffirait de prendre des cartes, parce qu'on reste quand même dans des cartes de poker. Ouais. Donc, je pense qu'on peut-être qu'on peut le faire, soi-même.
Mais moi, je le vois beaucoup sortir, parce que justement, j'ai plein d'articles qui disent, if you like Slay the Spire, try Balatro. Ah, bah parce voilà. Que je suis tellement fan de Slay the Spire.
Et vu qu'on est dans les jeux digitaux, eh bien, il y a Dune Imperium également. Oui. Qui a fait son apparition sur Steam, Xbox, iOS et Android depuis le 13 mars. Alors je n'ai
pas Android.
Testé. Ah, aussi Android dans ce
ah,
que
j'ai
lu.
Parce que j'ai essayé de le télécharger, j'ai pas trouvé.
Ok. Alors à quand une sortie sur BGA? Peut-être un jour, je
pour
ne
Dune,
sais pas.
Tu disais.
Pour Dune Imperium,
ouais,
exactement.
C'est téléchargé ça.
Ah ouais.
Ouais, ça y est, j'ai commencé. C'est pas super plaisant, je trouve, en termes d'ergonomie.
Ok.
Mais c'est vrai que ça fait plaisir.
Dommage.
De l'avoir, ouais.
Alors justement, bah, j'en profite pour revenir sur la version mobile de Dominion dont j'avais parlé il y a quelques temps. Et bien là, moi, je l'avais téléchargé, je l'avais pas testé quand j'en ai parlé. Et maintenant, j'ai fait plusieurs parties et c'est vrai que c'est très très plaisant.
Ah ouais.
Franchement, ça va hyper vite. C'est cool. Le jeu de base gratuit, donc c'est la version de base du jeu.
C'est quoi? C'est tu rajoutes 100 balles et puis t'as toutes les extensions.
Oui, t'as les 15 extensions pour 100 balles, mais ça, t'as pas besoin de le faire. Et même, t'as un défi en fait, t'as une partie quotidienne. Et si tu lances cette partie, c'est une partie qui intègre des extensions, même si t'as pas acheté l'extension. Alors c'est vrai que j'ai lancé et je me suis retrouvé avec plein de catégories de cartes que je ne connaissais pas, donc j'ai arrêté. Mais voilà, une très bonne app pour Dominion, donc en version mobile. Sinon, j'arrive du côté des extensions pour annoncer l'arrivée prochaine sur Kickstarter de Oceania, la nouvelle extension de Darwin's Journey, après Fireland, qui était leur première extension. Donc là, ils vont repasser par Kickstarter pour lancer cette extension. Et c'est exactement la même chose que va faire Earth, qui va débarquer le 22 avril. Avec
pourtant,
son extension.
La première extension de Darwin's Journey n'est pas encore sortie en boutique.
Je sais pas alors si elle est sortie en boutique en français, peut-être pas.
Non,
peut-être pas en français, mais elle n'est pas passée par KS. Par contre, Darwin's Journey, Oceania, là, elle va passer par KS. Okay. Et c'est vrai que l'extension Abondance de Earth qui va arriver le 22 avril sur KS, donc nous promet de l'interaction entre les joueurs, un sixième joueur. Ça, je sais pas, il y a beaucoup de jeux. Dans les extensions, ça rajoute le sixième joueur. Et en fait,
souvent,
personne joue à ces jeux, même à 5, déjà, c'est compliqué.
Mais sur les gros KS avec des figurines, tu sais, où déjà, tu joueras jamais à plus de 3 joueurs. Maintenant, t'as des extensions cinquième joueur, mais l'extension est une nouvelle espèce, ou une nouvelle race, ou un nouveau peuple, etc. Et donc, si t'as la collectionnité aiguë.
Ah, bah oui.
T'as envie de la prendre, tu vois.
Bah, bien
mais déjà, c'est comme moi quand j'ai pris le Kickstarter de Teotihuacan, qui rajoute un cinquième joueur. Ouais, j'ai jamais joué à 4, tu vois.
En plus, ouais. Ouais. T'es vraiment débile, quoi.
Ta violence gratuite.
Et sinon, pour terminer ces news, avant d'aborder BGA, parce que bon, il y a pas de jingle et tout, donc il faut.
On pourra le faire.
Et puis il y en a beaucoup en plus. Je suis en train de regarder, il y a pas mal de trucs.
Peut-être que tu t'ajouteras, j'ai pas tout mentionné, mais okay. on verra, tu compléteras. Il y a la campagne de Sleeping Gods Distant Skies en français qui va être lancée sur Game on Tabletop tout prochainement.
Par les collègues
grâce
de
Lucky Duck, exactement.
Qui
donc
continue,
ceux qui ont aimé Sleeping Gods ou ceux qui hésitaient à acheter Sleeping Gods, bah allez-y peut-être avec cette version là. Ils ont l'air d'avoir corrigé certaines choses qui avaient été reprochées par des joueurs.
Bah la correction donc, majeure, c'est que pour un jeu qui se joue essentiellement en solo, c'est ce que disait Martin Lafrenière et d'autres. Mais et puis moi, c'était aussi ma critique de Sleeping Gods, c'est que t'as moins de personnages à gérer en même temps.
T'en avais 8, non? Dans
8 ou 9 même, je crois. Okay, ouais. C'était vraiment.
Puis là, ça descend
beaucoup,
à 5.
Quoi.
Ils ont pas
ouais,
non plus.
C'est ça. Oui, mais bon, c'est ouais.
C'est déjà pas mal.
Mais si vous avez aimé l'univers et l'auteur, surtout, effectivement, ça.
Allez-y.
Allez-y.
Foncez. Vous avez d'autres news, les gars? Vous
non,
avez bossé? Non, vous avez rien. Okay.
Si, moi, j'avais bossé, mais pour la suite.
Toi. Ouais, pour la suite. Ça va venir, ça va venir. C'est pour ça, dès que je voyais, toi, dès qu'il y a des trucs qui se lancent sur cage.
Ouais, mais déjà, ça m'a un peu énervé, là.
J'ose parler, mais bon. L'extension de.
Je pensais pas en parler.
Et Darwin Journey, je me.
C'est safe, quoi.
Ça avait plus de sens que ce soit toi qui en parle.
Sinon, BGA.
Voilà. Ah.
Et j'ai partagé avec vous, hein. J'ai quand même eu l'honneur de recevoir le trophée champion de marathon.
Mais ça fait pas 10 fois que tu le dis, ça.
Non, mais j'en ai jamais parlé ici. Si, mais il faut faire la différence entre ce que je dis comme ça dans la vraie vie et ce que je dis dans le podcast.
Pour moi, la vie et le podcast, c'est pareil.
Donc, qu'est-ce que le trophée champion de marathon? C'est avoir joué 10 000 parties sur BGA, dont la grande majorité
en
tour
une semaine.
Par tour. C'est grave, docteur?
Pardon?
Docteur, il y en a 15, c'est vrai.
Non, c'est pas grave.
C'est pas grave. Ah, bah, tu m'en vas rassurer.
Si tu pouvais par contre finir ta partie de 8 pour que je puisse enfin, oui. passer avec toi.
Surtout que c'est pas comme si t'avais un demi-tour de retard, sur tout le monde, quoi.
Ah oui, putain, tellement loin.
Heureusement.
Donc, avant de parler des nouvelles arrivées, bah, je tiens à mentionner qu'il y a Boréal qui a quitté, enfin, qui s'est retiré, auto-retiré de BGA.
Ah,
l'éditeur, en fait, a décidé de retirer Boréal parce qu'il a été pas mal critiqué par rapport à certains joueurs en disant que la version BGA, bah, ne faisait pas honneur au jeu qu'il y avait. Alors, comme j'y ai jamais joué en vrai, je peux pas le dire, mais qu'il y a des choses qui étaient mal, en fait, représentées. Donc, ils ont décidé, plutôt que de laisser tourner, il était en bêta, je crois.
Il était en bêta, je crois.
Plutôt que de laisser tourner comme ça en bêta, ils ont décidé de le retirer et de retravailler finalement l'entier, je pense, du game design du jeu sur BGA. Donc, ils ne devraient pas non plus trop se faire attendre et revenir sur la plateforme. Dans les nouveautés, j'ai noté l'arrivée de Gezou X en version finale.
C'est Mims qui est fan.
C'est un jeu, il y a aussi Yoel qui aime beaucoup ce jeu. Il y a une extension d'ailleurs qui va bientôt sortir sur Gezou X, mais je l'ai toujours pas essayé. Il y a Oxeno qui est le nouveau jeu de la gamme des jeux de réflexion abstrait de chez Cosmoludo, là dans ces magnifiques boîtes.
Jérim Partinico. C'est lui qui a fait le jeu, qui a aussi fait Dictopia, un jeu que j'aime beaucoup.
Après, dans les versions finales, j'ai pas noté autre chose. T'as noté d'autres?
Non, mais moi j'ai vu en alpha, il y a.
En alpha, là, il y a pas mal. Ouais. En bêta, moi, je suis content parce qu'il y a enfin Rift Force qui passe en bêta, parce que ça faisait longtemps qu'il végétait en alpha. Je me suis dit, il verra jamais la couleur de la bêta. Ouais. Si, il est là. C'est un très bon jeu d'affrontement à deux joueurs que je vous recommande vivement. Et en alpha, alors effectivement, là, il y a eu plusieurs arrivées, dont Tikal, ce jeu de placement et de majorité. Des frères, mais pas du tout, des caca, Kissling et Kramer, donc édité en 1999 par Ravensburger et réédité en 2016 chez Super Meeple, donc bon matériel. C'est vrai que ça fait longtemps que je vois cette boîte. Il me semble que d'ailleurs, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça avec Sébastien Pochon, je ne sais plus pourquoi,
possible,
peut-être je me trompe. J'ai bien envie de le tester, donc pourquoi pas le faire sur BGA. Dans des jeux... Oui, initié, voire expert, il y a Newton, qui a fait son arrivée également. Ah. Donc, Newton de Nestore Mangone et Simone Luciani, chez Cranios Création. C'est vrai que moi, j'y ai joué en vrai. Ça fait longtemps que j'y ai pu jouer. J'ai lancé ma partie et je dois dire que j'étais un petit peu perturbé.
Perdu.
Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire déjà? Et j'ai l'impression que celui d'en face, il a dû dire pareil parce qu'il a quitté la partie ou alors il attendait qu'il se passe quelque chose. Sinon, il y a Spellbook qui a fait son arrivée, donc jeu de Phil Walker Harding chez les Space Cowboys. C'est un jeu qui n'a pas tellement bonne presse.
Non.
C'est vrai que j'y ai joué. Ça reste quand même un peu une énigme pour moi. D'ailleurs, à l'Udesco, j'ai croisé une table. Ils ont fait plusieurs parties parce qu'à chaque fois que je passais, c'était une équipe de jeunes. Je leur disais « Alors, comment ?»« Ouais, on aime bien. » Ils avaient l'air de bien aimer. Moi, j'ai de la peine. J'ai envie de lui redonner encore une troisième chance, mais j'ai quand même un peu de peine avec ce jeu. Et ça me fait un peu penser. Il est vraiment dans la même gamme, même catégorie de boîte que Archaeo Society, là, chez Space Cowboys, donc un jeu de Paolo Mori. C'était une réédition de Ethnos, et puis je trouve qu'aussi c'était pas, ça vendait pas du rêve, quoi. Il y a vraiment, pour moi, une assez grosse différence entre leur gamme de joueurs.
Mm-hmm.
Où là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'ils en sortent une, c'est bingo, c'est quoi, c'est solide, top. Ouais. Et puis les formats comme ça, les un peu plus gros formats, où là, je suis un peu moins convaincu par ce qui ressort.
Bon, en perspective.
Ah, c'est...
C'était Space Cowboys.
Ouais, Space Cowboys. Ouais. Ok. Bon, bah alors là.
Et puis il y a le jeu de Théorilière aussi là qui va sortir qu'on a vu à Cannes.
Oui.
C'est chez Space Cowboys. Oui, c'est chez.
Oui, oui. Oui, mais ça, j'attends de voir parce que ça m'a pas.
Oui, j'ai vu
sur la présentation,
emballé,
ça m'a pas. Ouais. À voir. On verra tout ça. Dernière arrivée pour moi en alpha, et ensuite je céderai la parole à Mathieu, c'est Loot. Donc un tout nouveau jeu de Gigamic qui était d'ailleurs présenté et à Cannes et à l'UDESCO, qui me faisait un peu d'œil et bah, qu'on n'a pas testé. Un jeu de Charles Chevalier qui est co-auteur de Abyss et Conspiracy avec Bruno Catala. Et puis Laurent Escoffier qui est co-auteur plutôt... en tout cas, les jeux que je connaissais le plus, c'était des jeux Enfants, Attrape-Rêve et Yum Yum Island. C'est pas toi qui
avais... Exactement.
C'est le jeu que te demandais à Yoel de jouer qui fait toujours pas notre vidéo, quoi.
Mais j'ai vu qu'il a joué à la Grande Jam.
Il a joué à tout, même à Yum Yum.
Ça va venir.
Mais je pense que depuis qu'il a joué à Broom Service, le pauvre, il est complètement désemparé.
Alors, si t'as vu ses commentaires,
il a arrêté de jouer aux jeux de société.
Justement pas. Je pense que
il a tout vendu.
T'as pas hâte que la vidéo sorte parce que tu vas te faire reprendre, mon gars.
Donc, ce Loot, L-O-O-O-T, joliment illustré par Nayad. Donc, c'est un jeu de pose de viking sur un plateau commun où on va collecter des ressources en fonction de où on place le viking et on va récupérer des tuiles que l'on va devoir poser sur un plateau personnel. Et puis, certaines tuiles, en fait, on va devoir les construire du style en mettant deux arbres et un mouton autour d'elles pour que ça construise et que ça nous donne des points fines, des points pour la fin de partie. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plateau commun, il y a aussi, on peut récupérer des bâtiments, mais pour pouvoir les récupérer, ben, il y a des conditions, c'est-à-dire les tours, il faut pouvoir aller d'une tour à une autre. Et forcément, quand on est plusieurs joueurs, ben, on se pique un peu les chemins. Franchement, j'ai commencé à y jouer sur BGA et je trouve ça plutôt efficace, plutôt intéressant, ouais, plutôt bien fait.
La couverture
est
très
belle. Exactement, c'est joli. Et j'ai bien envie de continuer et de le tester aussi sur la table. Je pense que c'est un jeu très accessible et vraiment fun à partager comme ça, avec tout type de joueurs familiaux, initiés. Ça va passer, à mon avis, sans trop de problèmes. Voilà, Mathieu, tu avais noté d'autres.
J'en ai trois.
Vas-y.
Dont un, peut-être, on a peut-être déjà parlé de Cold Baron, qui était en alpha. Non, alors Cold Baron, qui est un jeu, on me semble que toi t'en avais parlé, non, dans les KS, Benji?
Ça me dit rien du tout.
Cold Baron, en tout cas, lui, il l'a vu qui est en alpha. Il y a Fromage.
Ah!
Ah, il arrive, j'ai même pas vu ça.
Fromage est en alpha sur BGA. En plus, il y a un jeu qui s'appelle Bacon. Donc, on a Fromage Bacon, on commence à être bien. Et puis, bah, surtout, moi, un qui me hype beaucoup, c'est High Season, qui est en fait le Roll and Write de Grand Astria Hotel. On en a eu parlé, qui est maintenant en alpha sur BGA.
Voilà. Ah, alors, ça m'a pas du tout tilté quand j'ai vu le nom.
Ouais, donc okay. Ça, c'est trois trucs qui arrivent en alpha. Puis oui, donc Spellbook, Golden Crash, on a déjà parlé, il est là. It's a Wonderful Kingdom aussi. Ainsi que Flowers, qui est un petit jeu qui apparemment a eu beaucoup de ressemblances, de comparaison avec Skyjo. À voir à quel point c'est voulu. J'ai pas encore essayé, on nous l'a envoyé, mais voilà.
Je sais plus si on en avait parlé, mais il y a aussi l'arrivée, bah là, ils viennent de l'annoncer de Pocket Cats, chez Lumberjack Studio. Leur nouveau petit jeu ça a l'air assez fun. Moi, j'avais lancé une partie sur BGA, j'ai perdu 33-0.
Ah, c'est bon.
Donc, je me suis dit, tu sais, c'est le genre de petit jeu où tu te dis, ouais, je vais comprendre en y jouant. Et puis en fait, tu découvres les tuiles, tu dis, ah ouais, je crois que je comprends un peu, mais j'ai l'air d'être un peu mal parti. Puis effectivement, ça s'est confirmé. Mais voilà, jeu familial on retourne des tuiles et puis voilà, il faut faire attention aux chiens autour de nos chats, etc. Puis les envoyer plutôt vers l'adversaire, ça a l'air assez marrant. Donc voilà, en tout cas sur BGA, ça ne chôme pas. Hein, il y a quand même énormément de sorties en alpha.
Ouais, de plus en plus, j'ai l'impression quand même.
De plus en plus, bah ça devient une vraie plateforme aussi marketing pour les éditeurs pour présenter leurs jeux.
Pardon.
Ça voulait dire ferme ta gueule.
C'est fini. C'est fini.
Je suis prêt.
Totalement inutile.
Donc, totalement indispensable.
Avec Benji.
C'est beau, punaise, c'est beau. Vous êtes prêts, les amis? Heureusement, je prendrai un petit peu moins de temps que l'ami Maski, même si je sais que ces news sont indispensables à la culture ludique d'un certain nombre de nos auditeurs et auditrices. Je n'aurai que trois campagnes dont je vais vous parler aujourd'hui. La première, c'est un mot que je n'arrive pas à prononcer. The Waltz.
Ah, Wrath, ou je
sais pas. Wrath. Est-ce qu'il faut prononcer le W ou pas?
C'est
W. Ah, tu vois que toi aussi tu l'harcèles.
Oui, mais j'ai
W-R-O-T-H. Wrath.
Wrath.
Wrath. Ça veut dire quoi?
Je sais pas.
Ok. C'est les amis de Cheap Theory Games. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle aussi parce que je trouve la direction artistique absolument magnifique. Alors clairement, c'est clivant, je pense, puisqu'il faut aimer le flashy. Ça m'évoquait quelque chose, en fait, la direction artistique.
Ça veut dire énervé. Angry.
Ok. I'm wrath. Le mec qui fait la direction artistique, c'est le mec qui a fait Radlands. Et en fait, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette patte-là. Mais j'aimais beaucoup la direction artistique de Radlands.
C'est lui qui a créé le jeu aussi.
Je ne crois pas, puisque l'auteur est celui de Dice Throne. Donc, j'ai pas l'impression que ce sont les mêmes, mais peut-être j'ai mal compris. On est sur un jeu de contrôle de territoire, et puis bon, vous verrez que c'est ma conclusion qui fera que je ne vais pas le backer, mais c'est vraiment la seule raison pour laquelle je ne le backerai pas, puisque c'est un jeu asymétrique. 5 factions sont à votre disposition, 7 si vous prenez les extensions. On est dans un univers qui a l'air d'être de la fantasy, hein. Il y a des personnages nains, des personnages elfes, des personnages gobelins. Pour le coup, on n'est pas sur des chips de poker. Alors que c'est Cheap Theory Games. Par contre, on est sur des tapis en néoprène absolument magnifiques. Donc, il y a un tapis en néoprène central qui représente la carte du territoire. Et puis, chaque faction a son petit tapis en néo devant lui. A priori, on est sur un jeu qui est moins lourd que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vendent 15-20 minutes d'explication de règles et des parties de 1 heure. Sur la mécanique, on va être sur du draft de dés. Donc, il y a un bol central de dés. Puis, on choisit chacun notre tour un dé. Et puis, ce dé va nous permettre d'utiliser des actions qui nous sont spécifiques sur notre map et sur notre peuple à nous, qui vont de la gestion de ressources à au déploiement des troupes, au mouvement des troupes. Et l'objectif, bien sûr, c'est de conquérir finalement des parties de la carte centrale qu'il y a devant nous. Et puis ensuite, on score en fonction des territoires qu'on possède. Merci de votre aide, les amis. Et le premier à 40 points a gagné. Le pledge de base est à $55. Le all-in gameplay, donc avec les extensions, est à $86. Et le all-in est à $250. Donc là, tout à coup, tu prends 130 balles dans les dents. J'ai pas très bien compris pourquoi, mais c'est plutôt un all-in cosmétique. Alors bien sûr, il faudra compter les frais de port. Contrairement à ce que j'avais pu lire, c'est achetable en français, pour le coup. Oui. Et je dois dire que du Cheap Theory Games, la qualité, la direction artistique, franchement, pourrait me faire peser sur le piton. La seule chose qui va ne pas me le faire faire, c'est le contrôle de territoire, où je pense que ça va m'emmerder dès la première partie. En revanche, si vous faites partie de ceux qui aimaient cette méca, franchement, ça donne assez envie de foncer dessus. Are you ready for the next?
Yes.
Des questions sur Vrance.
Moi, je trouve ça me rappelle pas du tout Radlands. Radlands, j'étais fan. Là, je suis un peu... C'est un peu trop genre... Là, c'est bleu. Là, c'est vert.
J'adore ce niveau de critique.
En fait,
le plateau,
comme ça se prononce.
Le plateau, c'est vraiment genre, là, il y a une zone qui est bleue, l'autre elle est verte, l'autre elle est violette.
Ah, moi je trouve que c'est assez joli. Je suis d'accord avec toi, ça me saute pas aux yeux que c'est du Radlands, mais quand j'ai vu que c'était le même direction artistique, j'ai dit, ah ok, ça me choque pas en fait qu'il ait fait les deux, si tu veux.
Okay.
Voilà.
Si t'es pas choqué.
Mais je suis pas choqué, tu sais, il m'en faut, mon David.
Ça me rassure.
Le deuxième jeu, je vous en parle, contraint et forcé par notre ami Franck Belgarion, qui m'a expliqué que si jamais j'en parlais pas sur cette prochaine chronique, j'allais avoir des choses dans mon rectum, et puis comme je trouve que ça fait partie de ma partie intime, je préfère vous en parler.
Qu'est-ce qu'il allait glisser?
Je sais pas très bien.
Si c'est pas.
Ouais, t'aimes
bien les surprises, pourtant.
Ostia que vous connaissez ou dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2022, mais là ils font un reprint et une extension, et c'est sur Kickstarter. La méca est assez marrante, en fait. Vous allez avoir un plateau personnel qui est constitué d'un camembert, donc un cercle divisé en quartiers, et puis vous allez poser, chaque portion du camembert correspond à une ressource et une action. La première partie de votre jeu, c'est de poser tous vos petits bateaux. Coucou Amalfi. Tous vos petits bateaux sur une portion du camembert. Vous allez gagner autant de ressources de cette portion de camembert que de bateaux que vous posez dessus. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez égrainer petits bateaux. Donc une petite méca d'Awale. Enfin, de ce que j'ai cru percevoir, une petite méca d'Awale. Égrainer vos bateaux sur les portions. Et la dernière portion que vous atteignez avec votre bateau, c'est l'action que vous allez faire. Donc, pour le coup, je trouve ça assez sympa comme idée, parce que vous allez du coup réfléchir aux ressources dont vous avez besoin, mais aussi à l'action que vous allez vouloir prendre en fonction de l'endroit où vous allez déposer vos bateaux. Ça, c'est la méca du jeu. Qu'est-ce que j'en suis là? Donc, les actions, il y en a de différentes sortes. Vous allez pouvoir construire des nouveaux navires, donc devenir de plus en plus puissant au niveau de vos actions et au niveau des ressources, bien sûr. Construire des bâtiments, faire des marchés. La direction artistique est plutôt jolie. Je trouve en plus qu'elle me fait assez penser à Malfi, en fait. Des critiques que j'ai lues, il y aurait un petit peu de gestion de ressources, mais avec des sensations qui feraient un peu d'Eurogame, un peu d'interaction, et puis une course à des objectifs communs. Et donc, comme le jeu est déjà sorti, je suis allé voir sur BGG, il a une note honorable de 7.7, donc a priori un jeu qui a été apprécié avec des plutôt bons retours des gens qui l'avaient déjà acheté. En tout cas, il a suffisamment bien marché pour qu'il y ait un reprint qui soit donc proposé sur KS.
C'est pas une extension.
Mais est-ce que je peux éventuellement finir? Associé à une extension, Pirates.
Voilà. Ce que Benji Pirates. A pas dit, c'est que c'est donc pour une extension.
Voilà.
Que ce soit clair.
J'aime quand
Donc, associé à une extension. Effectivement, le jeu de base avec extension est à $87. Si vous avez pas le jeu de base, vous pouvez bien sûr aussi avoir l'extension seule. Le All-in Deluxe, pour le coup, on n'est pas sur les prix de Cheap Theory Games, hein, est à $132 avec des pièces en métal. Malheureusement, pas de VF, a priori, de ce que j'ai cru comprendre. Et de toute façon, j'ai même pas trouvé de jeu en VF, de ce que j'ai regardé. Il existe en anglais et japonais. Mais je dois avouer que la mécanique m'intéresse pas mal. Et puis, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de localisation. Ou alors, je suis passé à côté d'une info. Mais le jeu a l'air intéressant. Alors, je serais curieux de voir si Franck nous l'amène peut-être au week-end en YouTube pour qu'on le teste.
Bah, je suis en train de le backer, là, donc.
T'es sérieux?
Ouais. Ah bon? Moi, ça me parle trop.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis rien pendant 10 minutes?
Mais parce que je suis en train de le backer.
Mais t'es sérieux? T'as appuyé sur le bouton?
Si,
je vais. Eh ben, clic-cling.
Attends, il faut que je fasse là. Ouais,
vas-y,
truc.
Vas-y.
Voilà.
Mais pourquoi tu le back? Parce que je l'ai vachement bien présenté et que ça t'a donné envie?
Non, mais parce que bah, Franck nous a déjà dit qu'apparemment il est dur à trouver, c'est genre impossible à trouver en boutique. Lui, c'est son jeu préféré. Tu viens de faire la comparaison avec Amalfi. Le jeu, je le trouve beau. Et puis en plus, bah, il y a du double couche. Au pire, je le revends, mais.
Ouais, ouais, non, mais écoute, bah, je suis content.
J'ai rien backé depuis une année, donc.
Non, mais il y a aucun souci.
J'allais justement dire que depuis que tu fais ces news KS, on backait plus. Mais finalement, bah, voilà, Mathieu te sauve, en fait.
Non, mais écoute, c'est une excellente idée, ça. Ouais. La livraison est prévue pour quand?
Je sais pas. Mais bon, moi, j'ai pris le pledge à septembre.
Ça, ils s'en foutent.
Avec l'extension ou sans extension?
Avec l'extension.
Et pourquoi tu prends pas le pledge de luxe?
Mais oui, allez.
Allez!
S'il y a un intérêt là. Il l'ajoutera après.
Mathieu, c'est tellement facile.
Mais j'ai les stretch goals.
Mais c'est où le cling cling?
Oui, mais parce qu'il faut que je change, il faut faire ça.
Ah voilà.
Voilà.
T'as pris le Deluxe?
Oui.
Oui, c'est beau aussi.
Il a fait une prime.
Oh là là, je t'aime Mathieu.
Mais c'est... Ouais. Ah oui, c'est 20 balles de plus.
Bon, ça va.
Oh bah, il 20 balles.
T'auras les trucs en métal, hein. Ce sera tellement plus sympa à jouer.
Mais oui.
Mais oui.
Allez.
Ah non, le Deluxe c'est 120.
132, moi j'avais noté. Ah, tu l'as peut-être en franc, toi?
Oui, je l'ai en franc.
Oh, bah,
120.
Franchement.
Okay. J'espère que t'en as encore beaucoup parce qu'il a l'air chaud ce soir.
Non, c'est le dernier. Puis là, le suivant, vraiment, je doute qu'il le back. On revient sur GameFound. Avec, vous vous rappelez que Simone a quitté Kickstarter. Leur relation d'amour et leurs 59 ou 58 campagnes n'ont pas suffi. Malheureusement, Simone a
c'est
décidé de rompre.
Arrivent.
Et a rejoint GameFound, et donc, bah, première campagne de Simone sur GameFound.
C'est bon, c'est fait.
Magnifique.
Non, c'est ça. T'as deux boutons, mec.
J'arrive pas. Première campagne sur GameFound pour Simone, donc. Mais, alors, c'est déjà intéressant. Il ne la présente pas comme une campagne de financement participatif, mais clairement et officiellement comme une précommande. C'est indiqué sur la page de la campagne. On est sur un jeu qui s'appelle The Dead Keep. Qui ressemble à un dungeon crawler co-op dans un univers médiéval. Ça vous fait rêver quand je dis ça? Oh, j'ai l'impression qu'il y en a des milliers qui existent déjà, des dungeon crawlers dans un univers médiéval.
C'est le premier.
Ok.
Alors dis pas n'importe quoi,
oh là 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 là.
Benji.
Donc, alors, la DA est effectivement plutôt magnifique. Hein. C'est dispo en VF, pour le coup. J'ai l'impression quand même de plus en plus le cas avec les Simone, et je m'en réjouis. Il y a un seul pledge, donc c'est facile, c'est $160. Il faudra bien sûr ajouter la TVA et les frais de port. Non, ça m'étonnerait pas, on est d'accord. Alors bon, pourquoi donc le précommander? Bah, ils l'expliquent, parce que je pense qu'eux-mêmes sont pas convaincus, et ils expliquent que c'est une version de luxe, bien sûr, et une extension qui est gratuite. Vous avez une extension avec un truc absolument énorme. Alors on est chez Simone, hein, donc évidemment vous avez de belles et très grosses figurines, donc bah, mon propos, pour moi, Simone fait quand même des choses qui sont plutôt qualitatives. C'est un éditeur en qui on peut avoir confiance dans le financement participatif. Si vous aimez les dungeon crawlers ou si vous aimez cette thématique un petit peu médiévale, why not, hein? Je pense que, et puis accessoirement, si vous avez du blé, n'hésitez pas à le dépenser dans des jeux de société plutôt que dans autre chose. Mais clairement, pour moi, c'est un no-go. Je vous en parle juste parce que c'est Simone et que c'est leur première sur GameFound. C'est tout pour moi.
T'as vu qu'ils annoncent aussi, bah, toujours sur GameFound, les beaux Simone, hein, avec PlayStation, le God of War, the board game.
Oui, putain, je l'ai vu passer ça en plus. C'est Simone qui le fait.
En bas.
Mais on en avait déjà parlé, je crois, parce qu'ils l'ont annoncé il y a quelques mois.
Mais ils avaient fait un jeu de cartes déjà.
Oui.
Et puis maintenant, c'est le board game.
Ça, j'irai voir.
Des belles figurines.
J'irai voir. C'est tout pour moi, mon ami.
Parfait.
2025, quoi.
Pour God of War. Ouais. Ouais, je sais.
Tant qu'on a le temps de le voir.
Bon, il y a des films Marvel qui sont prévus en 2028, hein, donc.
Les gars vont parler de leur jeu de la semaine. Un jeu, deux jeux, trois jeux de la semaine. Benji, on verra si on a le temps. On joue-tu à nos jeux de la semaine?
C'est mon bon, putain.
Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu, le podcast des jeux de société. On est de nouveau pour la deuxième année consécutive à l'UDESCO, le plus grand festival de jeux de société en Suisse romande.
D'où le petit bruit de fond que vous entendez derrière nous.
Et je crois même en Suisse, hein, en général.
Je crois, oui. Et mais la dernière fois que j'avais dit ça, j'étais plus trop sûr, parce que peut-être qu'il y en a des gros en Suisse allemande.
Et hier, alors, j'étais pas pendant le discours officiel, mais paraîtrait-il qu'ils ont annoncé un des 10 plus grands festivals d'Europe en fréquentation.
C'est beau, ça.
Alors, c'est peut-être quoi, le 10e.
C'est quoi le nombre de fréquentations qu'ils ont? 15 000,
on enregistrera ça au prochain tour, parce que j'en ai aucune idée.
On vous revient avec cette info. Donc, comme on a fait l'année dernière, on va faire un peu par segment tout au long de la journée. Là, il est midi.
Exactement.
On a déjà fait un jeu, mais moi, je voulais qu'on commence parce que là, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas enregistré depuis l'épisode avec Penelope. Et donc, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un petit retour sur les choses qu'on a jouées, parce que moi, en tout cas, j'ai joué à énormément de jeux. Je me suis dit, on va en parler de deux. Puis je vais vous laisser choisir, les amis.
On fait pas de news ou bien?
Non, surtout pas.
Ok, bon, ça me rassure quand même. Parce que j'ai rien préparé.
Ah merde, attends.
Alors, moi, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai joué à 7 nouveautés. Donc,
pas
seulement des nouveautés, mais des jeux que j'avais jamais joué. Je vous laisse choisir donc celui qui vous intéresse. J'ai joué à Pick It, le jeu de reproduction avec les monstres là, qu'on s'est fait pitcher à Cannes.
Ah oui.
J'ai joué à Love Letter version Marvel.
Non, ça m'intéresse pas du tout.
Excuse-moi. Robotrick, qui est un jeu de pli. Qui est uniquement pour 3 joueurs. Hitster, un jeu de un peu à la Blind Test. Elia et l'éclat de la montagne, le fameux.
Oui.
Là, tu vas pas trop pouvoir en parler,
exact.
C'est le problème.
Ensuite, j'ai joué à 12 Chip Trick, qui est le jeu que Vincent Dutré nous avait parlé,
oui.
Avec les jetons. Et finalement, j'ai joué à Courtisan. Donc, lequel est-ce qui vous intéresse?
Alors, moi, comme j'ai pas envie que tu parles longtemps, j'aimerais bien que tu nous parles d'Eila, s'il te plaît. Non, c'est juste pour qu'il parle pas long. Non, en fait, il peut pas, effectivement. C'est, on en a un peu parlé.
C'est dur d'en parler sans spoiler des trucs, tu vois.
Bah, c'est ça, donc n'en parle pas.
Non.
Je sais pas, soit le Vincent Dutré, ouais. soit les robots excités, là.
Exactement, c'est les deux aussi que j'avais en tête.
Et puis le premier, là, que t'as dit aussi, il m'intéresse pas mal.
Pick It, c'est celui des robots, là.
Ah, bah alors, ça. Non, t'avais dit robot trick.
Oui, alors ça, c'est le truc un peu à la Godzilla, là.
Ok, le premier.
Alors, Pick It, c'est un jeu qui va sortir, qui est donc pas encore sorti chez Repro Production, dans leur même gamme de boîtes, petites boîtes comme Little Tavern, qui a une direction artistique plutôt cool que nous on a trouvé. Toi, t'étais pas d'accord, ça t'a pas du tout attiré.
Le côté un peu BD. Je sais pas de qui tu parles, mais.
Ah oui, pardon, excuse, Benji était d'accord avec moi pour dire qu'il y avait
une
DA assez intéressante, vraiment le côté un peu.
Très manga.
Ouais, très manga. Et donc le but, c'est pour le coup, ils ont collé une thématique là-dessus, alors qu'au final il y en a pas tellement. C'est un jeu où on va tirer des dés, et si par exemple moi je fais un 4 et un 3, il va y avoir des cartes posées sur la table qui ont une valeur. Donc avec un 4 et un 3, je peux soit prendre un 3, un 4, s'il y a les deux je peux prendre les deux, ou je les additionne, je fais 7, ou je fais la différence puis je fais 1. Voilà. On va prendre des cartes, on va les poser dans notre jeu. Ces cartes-là vont valoir des points. Donc, c'est sûr que la 7 vaut plus de points que la 1, et ainsi de suite. Si tu tires des doubles, c'est-à-dire si je fais 4 et 4, je peux aller prendre un mecha, mm-hmm. qui, lui, va donc être une carte qui va rapporter des points, mais qui peut être volée par ton adversaire. Le jeu, les règles sont méga simples. Je viens de vous les expliquer. On a fait deux parties avec Mims. Pour le coup, c'est pas du tout un jeu qui se joue à deux, mais on a fait des parties à deux joueurs. Et les deux, on a trouvé sans intérêt, en fait. Vraiment. Il y a un côté où, tu sais, je vous ai expliqué les règles qui sont simples, mais en fait, ça reste là-dessus. Il y a des fois, on entend des règles de jeu, on se dit, ah, c'est simple, ça a l'air cool, mais là, c'est simple, puis il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de montée en puissance, il n'y a pas un moment où tu dis qu'il y a un retournement de situation, tu fais juste tirer des dés et prendre des cartes. Donc, je sais pas, ça nous a vraiment pas emballé. Faut dire qu'il n'y avait pas vraiment une mécanique innovante ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le seul point positif que j'avais, c'était la DA, qui pour moi m'a plu. Mais c'est pas du tout un jeu que je vais revenir dessus, donc voilà, une petite déception pour cette boîte. Depuis le dernier podcast qu'on a fait, parce que je veux pas que chier sur cette gamme de repos production, mais Little Tavern, j'ai fait beaucoup de parties avec des groupes différents, et puis pour ce qu'ils proposent comme jeu, je le trouve assez chouette. Et puis de plus en plus, il me fait plaisir à sortir. Donc, petit retour sur. On avait fait une critique qui n'était pas super, je pense, de Little Tavern, mais moi, il me fait plaisir. Puis j'ai joué avec des collègues.
Mais déjà, quand on avait rejoué à Cannes ensemble, là, on l'avait testé. Finalement, on s'était bien marré.
Oui, oui.
C'est vraiment du Texas à fond et les ballons, mais ça dure 10 minutes.
C'est ça, qui se joue rapidement.
Donc, on avait assez apprécié.
Il faut vraiment le jouer comme un jeu d'ambiance et créer de l'ambiance autour de la table. Ouais, c'est vrai que si tu le joues en mode un peu sérieux, à réfléchir trop longtemps, où tu vas mettre il va vite être chiant. Mais c'est vrai qu'en mode ambiance, voilà, prends ça, allez, celui-là par contre je le garde, non tu le garderas pas, etc. Non,
donc,
c'est assez plaisant et rapide.
Pour Little Tavern et pour le coup Pick It, deux jeux dans la gamme de Repos Productions.
Donc t'as parlé pour tes deux jeux là, c'est bon, on est tranquille.
Non, c'est bon. Benji, à toi.
Yes, moi avant de vous parler d'un petit jeu, j'ai envie de vous parler des 5 royaumes, parce qu'on l'a testé, Matt et moi, avant-hier, on s'est vu, cette semaine. Donc il est un jeu à venir de chez Gru Games, de l'ami Flo, c'est Flo qui est l'auteur, avec Minguez qui est au crayon. Le jeu arrive à la fin du mois de mars, je crois.
Non, avril.
Ok, avril. Et puis ils avaient eu la générosité et la gentillesse de nous l'envoyer, et donc on l'a testé. Alors d'abord, moi, un petit mot sur la DA. Je suis très très fan du style de Jean-Marie Minguez. J'avais déjà beaucoup aimé dans Nidavellir, et je trouve que dans les 5 royaumes, là vraiment, il maîtrise parfaitement son art. Je sais que toi, t'es un tout petit peu moins fan que moi,
Mathieu.
Mais
aussi moins pour Nidavellir.
C'est juste, Mais là, moi, vraiment, je trouve ça superbe. Et puis en plus, c'est ce mélange noir et blanc couleur, en fait, rend très très bien. Donc je suis très fan. J'étais assez hypé par la petite boîte et par les cartes. Et donc on y a joué. Le pitch du jeu, il est aussi simple que le jeu est difficile à maîtriser. Vous piochez une carte et cette carte, vous décidez soit de la mettre autour de votre trône pour avoir un scoring de fin de partie ou un bonus immédiat, sachant qu'autour de votre trône, qui est une carte en elle-même, vous n'avez donc que 4 espaces, donc vous n'allez pouvoir mettre que 4 cartes tout au long de la partie. Soit vous prenez cette carte, vous la retournez, vous utilisez la couleur qu'il y a derrière. Il y a 5 couleurs, 5 familles, et vous les empilez en colonnes. Ça fait un petit peu style Nidavellir. Et puis, avec ces couleurs, vous allez pouvoir gagner des objectifs que vous avez autour de votre trône ou d'autres style de faire des points de victoire. C'est tout. Le jeu, il est juste là. Vous avez des pouvoirs avec certaines cartes qui peuvent paraître un tout petit peu compliqués au début, parce que sur la première partie, vous allez devoir assimiler finalement ces pouvoirs. Mais dans l'absolu, ça n'est pas compliqué. Par contre, je l'ai trouvé chaud à maîtriser. L'avantage qu'il a, c'est que les parties qu'on a faites, toi et moi, elles ont duré entre 5 et 10 minutes. Donc tout de suite, on en relance une. Mais on est vraiment sur cette sensation de jeu de cartes, j'allais dire un peu expert, mais je pense pas que ce soit... Je me trompe quand je dis ça, parce que dans le fond, c'est compliqué à maîtriser. Qu'est-ce que je fais de cette carte? Est-ce que je la mets dans mes colonnes? Est-ce que je la prends autour de mon trône? Si je la prends autour de mon trône, il m'en reste plus que 3 derrière, ou plus que 2 derrière, ou plus qu'une derrière. Il y a un petit truc marrant où il y a une carte qui s'appelle... un style de carte. C'est les comment ça s'appelle, les titans.
Oui.
Pour le coup, si vous avez 5 titans, la partie est finie, vous gagnez la partie. Donc Mathieu était en train de me mettre pilé sur pilé au fur et à mesure qu'on jouait, et puis il y a une partie où moi j'avais 4 titans et où j'avais la possibilité d'en avoir une cinquième. Ça crée une petite tension assez marrante. Moi, j'ai vraiment trouvé des sensations plaisantes dans ce jeu, mais je l'ai trouvé hyper dur. Et je disais à Matt, c'est un jeu qui donne envie de le rejouer pour comprendre petit à petit ce que tu fais. Et moi, en 4 parties, j'ai vraiment pas eu l'impression de comprendre, y compris à la 4e.
Ouais.
Alors, je suis pas une référence, je vois la tête de David au moment où j'explique ça. J'ai bien compris, connard, mais clairement, j'ai très envie d'y rejouer parce que j'ai envie d'avoir le plaisir de. Je sais à peu près ce que je fais et je comprends ce que je suis en train de faire.
Du coup,
ce que je n'ai pas eu.
La promesse est tenue parce que la gamme donc de ces mini box que Gru Games font, comme était avec Golden Crash, c'est l'idée que c'est des tout petits jeux, mais c'est pas du tout des tout petits jeux en termes de règles et de complexité.
On est pour moi sur un jeu initié plus expert, parce que vraiment il est pas simple à maîtriser de ce que j'ai vu là sur ces parties, mais hyper plaisant et très stratégique pour le coup. Il y a vraiment un truc stratégique derrière.
Mais tu joues combien de cartes chacun par partie au total? Parce que t'as ces 4 autour du trône, mais t'en as d'autres au total.
Il faut que tu finisses la pioche. Je sais pas combien est constituée la pioche, mais
donc tu peux très vite.
Oh non, plus que ça, une soixantaine. Oh, oui.
Tu pourrais mettre très vite les cartes autour de ton trône.
Oui, mais
et ensuite
t'es
embêté parce que tu dois trouver les objectifs entre guillemets qui vont avec.
C'est là que je trouve qu'il y a tout le sel du jeu. Tu vois, c'est à quel point est-ce que tu vas aller vite te mettre tes objectifs, ou à quel point tu te dis j'attends, en fais une partie selon ce que j'ai.
C'est
après
ça,
peut-être que tu tomberas pas sur la carte que tu veux.
Parce que tu peux aussi avoir l'avantage de mettre très vite tes objectifs et ensuite de faire exactement ce que tu veux en fonction de tes objectifs, ou comme tu disais d'être très opportuniste et de tenter à la fin de partie j'ai beaucoup de bleus, coup de chance, je tape une stratégie bleue, je la mets à ce
intéressant
moment.
Intéressant, ça me donne envie de tester.
T'aimeras, j'en suis sûr.
Ce qui est aussi sûr, c'est que plus vite que tu montes tes couleurs, c'est-à-dire que tu mets autour du trône, mais plus vite que ton adversaire il peut savoir où te bloquer. Ce que nous on n'a pas du tout fait parce qu'on est un peu dans l'apprentissage, mais si tu viens à être assez pro à ce jeu-là, je pense que tu vas aussi regarder si lui est vieux les jaunes, il faut que je m'assure de jamais lui laisser et tout. C'est intéressant,
j'ai bien aimé, bonne sensation. Donc les 5 royaumes chez Gru Games, apparaître en février, en avril.
Si je dis pas des bêtises, je crois que c'est le 5 avril, c'est ce qu'il m'avait dit.
Ok.
Voilà, début avril.
C'est probablement pas juste, hein, mais.
Ouais, mais c'est début avril. Pèse sur le bouton. Et puis toi, David?
Moi, alors, bah déjà, je vais commencer par un petit pitch exprès pour vous donner un peu de plaisir autour de cette table. Non, c'est simplement que, bah, personnellement, j'ai un peu une double casquette à l'UDESCO parce que
ce serait pas la première fois que t'as des doubles casquettes. Hein.
Non, c'était déjà le cas l'année dernière.
Mais c'était déjà le non, pas du tout. Bah, l'année dernière, j'étais que en joutu.
Non, mais quand t'étais à PL, t'avais la double casquette.
Ah, oui, la double juste... casquette avec Hurricane, Swiss ouais. Game, etc. Non, alors là, c'est avec le Musée Suisse du Jeu. On a également un stand. Et puis on a voulu définir en fait une thématique sur ce stand en se disant bah tiens comment est-ce qu'on pourrait mixer des jeux anciens avec des jeux contemporains. Et puis on a décidé de choisir le jeu donc Laowele qui est un jeu du 7e siècle, un jeu africain dont il existe 280 règles différentes, des plateaux différents, etc. Donc on a choisi un Laowele classique et ensuite on s'est dit bah tiens on va aller chercher des jeux contemporains qui s'inspirent
de cette mécanique
là, la mécanique de l'égrenage, si on le bien. Donc l'égrenage, c'est on va prendre tout ce qui se trouve dans une case pour aller mettre dans les cases d'à côté, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse comme dans la Welle, pour remplir les cases d'à côté. Et donc j'ai décidé de vous parler d'une expérience. Donc c'est un jeu que j'ai découvert pour pouvoir le proposer ici. C'est un jeu qui s'appelle le Space Walk, un jeu de 1999 de chez Ravensburger dans une grande boîte avec beaucoup de vide, qui a été réédité chez Gigamic en 2014, mais qui, à ma connaissance, n'est plus édité à ce jour. Par contre, on arrive quand même à trouver sur internet des boîtes. D'ailleurs, nous, on a pris une version d'origine de 1999 commandée en Allemagne, neuve sous cellophane, nickel. Et c'est vrai que toutes les personnes qui jouent, eh bien, on trouve un grand intérêt. Et c'est vrai que c'est un jeu fun. Pourquoi il est fun? Parce que on se trouve déjà. Alors, c'est un jeu space, bien sûr.
C'est beau,
Space
Walk. Pour le moment, j'étais surpris.
Donc voilà, je pense que ça peut surprendre, surtout venant de ma bouche. On a un plateau qui représente toute une série de planètes.
Ce serait un jeu histoire vu qu'on est allé dans l'espace.
Exactement, aussi ça peut entrer dans la team histoire. Sur le plateau, il y a des planètes donc en cercle, toute une série de planètes et au milieu de ces planètes, il y a trois trous, donc c'est les trous noirs. Chaque joueur a 9 vaisseaux à sa disposition de 3 tailles différentes. Donc il y a des grands vaisseaux, des moyens et des petits. Au début, on doit tous placer nos vaisseaux, donc chacun notre tour, on va prendre un vaisseau et on va le mettre sur une des planètes. La seule condition de pause, c'est qu'il ne peut pas y avoir sur une planète plusieurs vaisseaux de la même taille. Mais on peut très bien avoir 2 vaisseaux à nous si les autres ne nous prennent pas les places. Donc on place chacun nos 9 vaisseaux jusqu'à ce que tous les vaisseaux soient posés. Et puis ensuite, le premier joueur va choisir une planète. La condition de choix est qu'il doit au moins y avoir un vaisseau de sa couleur sur cette planète-là et va les égrener en commençant par le plus grand vaisseau qui va avancer d'une case, le vaisseau moyen qui va avancer après le grand, et puis le petit, etc. Et en fait, le but, vous l'aurez compris, eh bien, c'est de faire tomber dans les trous noirs les vaisseaux de vos adversaires pour être idéalement celui qui, à la fin de la partie, se retrouvera avec le plus de vaisseaux présents encore en jeu. Et c'est hyper fun parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec des planètes où il y a 3 grands vaisseaux, 2 moyens et 2 petits. Et on choisit, ok, alors on doit faire bouger déjà les grands. Donc est-ce que je fais bouger le mien en premier ou alors je vais plutôt faire bouger celui de mon adversaire? Et puis ils se déplacent tous d'une case de plus que le vaisseau précédent. Donc on est vraiment dans un jeu où on peut, et je pense qu'entre nous ça va très bien marcher, parce qu'on est là, oh, oh, plouch. Et ça tombe dans le trou noir. Oh, je suis désolé mon Benji, plouch.
Et ça, voilà, ça, donc ça insulter, je pense.
Mais ça peut être hyper analysis par analysis parce que tu peux compter le nombre de cases que tu vas.
Ça pourrait. J'ai vu une ou deux parties hier où il y avait un peu trop d'analyse, mais voilà, il faut y aller quand même en mode allez, je balance mes trucs. Et ouais, c'est vraiment super sympa et je trouverais, c'est typiquement le genre de jeu où je me dis aujourd'hui, il mérite d'être édité, ou en tout cas édité encore, parce que il est très très fun. D'ailleurs, Diogo de l'Axe, donc jeune auteur suisse. Il l'a découvert hier sur le stand et puis on l'a vu revenir plusieurs fois dans la soirée. J'ai vu un tweet où il a dit qu'il a été surpris vraiment bien avec ce jeu, donc il fait l'unanimité. Donc voilà, Spacewalk de chez Ravensburger, puis Gigamic pour une réédition.
Mais donc 2014. Là, la réédition de 2014, il est toujours achetable ou...
Non, il est plus à voir, il est plus édité, mais voilà, tu le trouves sur des sites de vente seconde main ou voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, à voir, il n'est plus édité par Gigamic. Donc voilà, ma première expérience.
Alors, deuxième, moi je vais vous parler de 12 Chip Trick, qui est donc un jeu tout petit de chez Mandu Games, qui ont tout récemment sorti Veil of Eternity, donc qui a fait un bon succès, donc c'est une boîte coréenne. Ils ont aussi sorti Dracula Van Helsing. Et donc là, 12 Chip Trick, c'est un jeu tout simple où on a des jetons de poker. Déjà, le matériel est assez cool parce que, tu sais, d'avoir des vrais jetons de poker comme ça, c'est cool. Ouais, mais bon, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, donc c'est un seul matos. Et donc, il y a deux couleurs, tu as des jetons qui sont soit rouges ou bleus. Et puis, tout simplement, on va donner deux rouges au hasard à chaque joueur, deux bleus au hasard à chaque joueur. Et à chaque tour, on va devoir, en même temps, jouer un jeton. On le retourne, on va regarder la valeur la plus élevée. Et puis, la valeur qui est la plus élevée va devoir prendre un jeton pour remettre dans son jeu, puis les scorer. Et donc, tu es obligé de prendre d'abord les rouges. C'est un peu comme si tu as un atout. Donc, tu as le truc de, par exemple, si moi, je joue un 12 bleu, c'est le plus haut chiffre, ben moi, après, je suis obligé de prendre. S'il y a un rouge, je suis obligé de le prendre. Ce qui veut dire que tu peux pas déterminer d'avance les jetons que tu vas prendre. Ton but, c'est un peu comme le blackjack, d'arriver à 21 points à la fin de la manche. Donc, on a fait une partie, parce qu'une manche, ça prend, 5 minutes. On a fait une manche, on a joué à 4, et puis après, on s'est regardé comme, c'est quoi ce jeu, en fait? On se demandait, c'est quoi qui est ludique derrière le jeu? Après, j'ai dit, on en relance une. Et t'en relances une, et puis tu te rends compte qu'il y a un petit côté un peu brain de... En fait, quand tu vas jouer un truc, tu dis, mais si moi, je sais que tout le monde va jouer du rouge sur ce tour-ci, je veux surtout pas être dans les premiers à prendre parce que les rouges souvent ont des valeurs plus élevées et ça va te faire buster. Donc t'essayes d'un peu de rentrer juste au bon endroit pour qu'à la fin tu puisses prendre des jetons bleus. Donc c'est un jeu qui gagne à être joué. Puis d'ailleurs, on a fait 2-3 parties, puis la troisième j'ai trouvé cool. Mais bon, c'est un jeu qui se joue vite. Mais je me suis dit vraiment, je pense qu'il y a moyen, si tu joues avec des gens qui sont un peu... Ouais, je sais pas comment dire, mais il y a un côté très analyse de dire, mais si moi je vais faire ça à ce moment-ci, ça va pouvoir rentrer pile dedans. Mais c'est vrai qu'on a été, parce que c'est possible de buster tout le monde autour de la table, donc personne fait de points pendant la manche. Puis c'est arrivé quand même 2 fois, c'est pas qu'on s'est regardé, genre, mais est-ce qu'on est nul? Mais pour le coup, c'est un jeu.
Ce qui est quand même une hypothèse à avoir en tête.
Oui, bien sûr.
Je veux pas.
Attention, c'est, sûr, ouais, ouais. C'est clair. Mais j'ai trouvé que le jeu était assez intéressant, c'est une petite boîte, et puis donc. Je suis pas là à vous dire vite courir à sauter dessus, mais je me disais, si quelqu'un vous le propose, essayez-le, parce que c'est vrai qu'il y a un côté assez j'arrivais pas à le comparer à un autre jeu, en fait. Il y a vraiment ce côté de je vais jouer un truc, mais surtout pas pour le ravoir. Selon ce que les autres vont jouer, ça, je vais peut-être être obligé de le reprendre. Il y a un truc un peu space, quoi.
Ben, c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, plutôt en bien. Finalement, ouais. C'est un jeu de cartes, mais avec en jetons de poker. Ouais. Et finalement, ce que j'ai cru comprendre, c'était entre guillemets son originalité, mais sa faiblesse, parce que avoir, il serait plus agréable à jouer avec des cartes, tout simplement. Parce qu'il paraît que t'es toujours en train de regarder quel jeton t'as, etc.
Après, ce qui est cool, c'est étant donné que la couleur est importante, après tu me diras, tu prends le dos des cartes différentes, mais là c'est vite vu, tu vois les autres, je sais pas.
Ça a l'air sympa, mais c'est vrai que
je vous irais pas courir aller l'acheter, mais si quelqu'un te le propose, pourquoi pas. Ok,
mais tu l'as?
Moi je l'ai, ouais. Ok. Je vous le ferai essayer, ça prend 2 secondes, quoi.
Volontiers. Super.
Benji, tu veux nous parler de.
D'un petit jeu.
The Motherlode.
Hein?
Le vaisseau mère.
Le vaisseau mère?
Ouais. Mais c'est ISS Vanguard, non?
Ah oui, putain. Ah. Mais c'est...
Tu l'as essayé?
Bien sûr. Je peux vous en parler. J'ai enfin reçu ISS Vanguard. Non, là, j'étais en train de regarder si Planet Unknown était Spielberg CRS ou pas. J'avais un petit doute. Parce que je m'étais dit que tu pourrais peut-être aussi en parler, Mathieu, après.
Ouais, peut-être après.
Mais bon, j'étais dans un hors-sujet total.
Oui, alors, total.
Et oui, mes amis. J'ai reçu cet énorme carton. Mon épouse a fait un infarctus au moment de la réception. C'est David, à qui je rends hommage ici publiquement. Je dis bonjour, on nous dit bonjour, je salue. À qui je rends hommage ici publiquement, disais-je, avant d'être brutalement interrompu par Mathieu, ici présent également, puisqu'il a dû aller le chercher chez le vendeur de bouteilles de vin.
Tout à fait.
Et le porter sur quelques dizaines de mètres, alors que le carton est un peu encombrant, parce que moi, quand j'ai dû le sortir de ma bagnole à chez moi, j'en ai un peu chié.
Surtout que j'avais une bouteille de gin avec, oui, c'était vrai. Promis au
délicieuse
au vendeur
par ailleurs, je l'ai goûté. Tant mieux. Et c'était la première vague, il y en a une deuxième qui va aussi arriver.
Mais aussi là-bas.
Ouais, bah oui, j'ai pas pu changer l'adresse.
je vais plus y monter après.
Bref,
on ira ensemble. Ça c'est un petit week-end
plaisir,
tous les deux.
Avec plaisir, on va skier. Ça peut être une bonne idée.
Bah, j'aimerais
ça
bien tous les trois même.
Un unboxing un tout petit peu long pour ma part, puisqu'il a fallu que je sorte la boîte de base, la boîte de complément, la boîte de section pets, la boîte de section cards, etc., etc. J'ai d'abord été un peu agacé. À l'inverse de Man Cash Games, pour qui il y a une vraie réflexion d'organisation de la boîte, quand tu reçois ta boîte de luxe, tout rentre dans la boîte de luxe. ISS Vanguard, t'as la boîte de jeu et puis derrière ils t'offrent 50 add-ons cosmétiques. Il y a aucune réflexion sur comment ces add-ons cosmétiques rentrent
ils
dans la boîte.
Ils n'ont pas numéroté les boîtes.
Ah, ils n'en ont rien à foutre. Mais vraiment, tu sens qu'ils c'est pas du tout intégré. Ce qui fait que quand j'ai dû sortir ma boîte, bah en fait aucun des add-ons que j'ai ne rentre dans la boîte. Donc j'ai 4 boîtes supplémentaires que je dois mettre à côté, qui sont de petite taille et tout. Donc je les ai insultés une bonne partie de la soirée quand même. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de mecs qui arrangent la boîte, etc. Mais il faut couper au cutter le truc. Oh putain, franchement, ça m'a trop saoulé. Donc j'étais un peu saoulé dans un premier temps. Et puis j'y ai joué.
Ah.
Et puis j'y ai joué. C'est quand même un putain de jeu. Putain les gars, c'est vraiment un truc. Bah c'est unique. Hein, il y a aucune autre. Il y a deux jeux en un. Il y a un jeu d'exploration spatiale, pour lequel on peut trouver des liens, je trouve, avec Unsettled. Quand même, c'est pas le même jeu, mais on peut retrouver des liens. C'est beaucoup moins Eurogame qu'Unsettled. Là, on est vraiment sur de l'Améritrash. Hein. Ouais. Vous lancez des dés, vous allez améliorer vos compétences avec des cartes, mais c'est quasiment la seule méca, en fait, dedans, avec le narratif, bien sûr. Vous vous rappelez un peu de la partie que vous avez faite à Cannes?
Bon,
elle avait effectivement été mal expliquée, parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, à jouer, mais vous allez vous déplacer sur une map. Sur cette map, vous avez des cartes que vous allez explorer petit à petit, comme
retourner,
tous les jeux narratifs. Vous les retournez, vous découvrez, etc. Vous avez une mission à remplir et ensuite c'est du narratif, donc en faisant des missions vous allez avoir de nouveaux trucs, etc., etc. Ça, c'est potentiellement long parce que vous avez une mission principale et la mission principale c'est d'explorer des planètes pour trouver quelque chose. Je spoil rien, donc j'imagine facilement que vous allez passer une vingtaine, une trentaine d'heures si vous voulez finir la campagne. Mais ça c'est la moitié du jeu. Et l'autre moitié du jeu, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous quittez une planète, vous revenez sur votre vaisseau, et là, vous avez une partie dans la partie que je trouve extraordinaire. Vous avez un classeur qui représente votre vaisseau, et en fait, il n'y a pas de livre de règles, c'est juste que vous lisez l'intercalaire, ça vous dit quoi faire, vous tournez l'intercalaire, vous faites la suite, etc. Donc quand vous rentrez dans votre vaisseau, bah, vous devez voir s'il y a des blessés. S'il y a des blessés, vous devez les mettre à l'infirmerie. S'il y a des morts, vous devez les enterrer, vous devez les mettre dans le je sais plus comment ça s'appelle, le mortarium ou un truc comme ça. Chaque fois que vous avez un mort, vous avez un petit bonus parce que son décès vous a appris des choses. Vous allez ensuite développer votre vaisseau, vous avez trouvé des choses sur les planètes, donc vous allez pouvoir lancer des recherches scientifiques, lancer des recherches d'amélioration de votre vaisseau. L'amélioration de votre vaisseau, elle va vous permettre d'aller plus loin entre les planètes, d'avoir plus de membres d'équipage, d'avoir un vaisseau, un atterrisseur, parce qu'il y a plusieurs types d'atterrisseurs, pour aller sur la planète qui va être plus résistant, etc., etc. Et ça, mais en fait, si vous aimez des jeux de gestion, on n'est pas sur un truc complexe, hein, mais on est sur de la gestion de vaisseau qui, moi, me fait tellement rêver. Et j'en ai parlé avec Belgarion, le pote de la communauté, qui lui aussi est fan. C'est aussi, il adore aussi ce truc-là. J'en ai parlé avec un autre copain, Olivier, qui dans les gros jeux. Et puis ce truc là ça vous donne vraiment la sensation de gérer votre vaisseau complètement, quoi, de développer votre vaisseau et de le construire petit à petit.
Mais petit à petit, justement, t'as pas l'impression que ça va devenir un peu répétitif?
Alors, c'est
ce
la
que
crainte...
Martin Lafrenière avait l'air de dire quand même.
C'est la crainte.
Après,
que j'ai
qu'il va jouer qu'une fois, ça,
ouais. Ça va. Alors non, parce que pour le coup il est sur la table et il reste sur
puis
la
c'est
table.
C'est son nouveau meilleur jeu ever.
Bande de cons. Non, justement, je voudrais le laisser sur la table pour pouvoir y rejouer. Et j'ai...
Mais la table à manger?
Non, la table au sous-sol. T'imagines? Non, parce que alors par contre, oh putain, la place que ça prend. Parce que vous avez un bouquin pour les planètes, ça représente la planète. Vous avez un bouquin pour les textes d'ambiance. Vous avez un plateau pour le vaisseau. Vous avez un plateau pour chaque membre d'équipage. Il y a 4 membres d'équipage. En solo, moi, je joue qu'avec 2, mais j'ai un pote qui m'a dit qu'il fallait jouer avec 3. Et puis moi, j'ai des plateaux néoprène pour chaque membre d'équipage, qui bien sûr ne rentrent pas dans la boîte, hein. Inutile de vous le préciser.
Quand t'as des invités qui viennent à la maison, ils disent, ouh, mais vous êtes combien à jouer à ce jeu-là?
Franchement, sur ma petite table qu'il y a au sous-sol, c'est limite en termes de place.
Mais tu trouves pas qu'on dirait qu'il y a une mode dans les jeux de société en ce moment de faire des énormes jeux puis d'avoir aucune pensée pour les tables des joueurs, en fait? Alors, parce que tu penses même Voidfall, c'était pareil.
C'est fait,
oui,
pour jouer par terre.
Je pense quand même que c'est difficile de comparer les deux, mais c'est difficile de le faire plus petit parce que malgré tout, t'as besoin de ce matériel, clairement. Mais pour revenir à la qualité du jeu en elle-même, vous avez aussi, je vous ai pas tout dit, mais vous vous rappelez qu'on a un personnage avec un deck de cartes. Les cartes, vous les rentrez dans des pochettes.
Ouais.
Ces pochettes, elles vont évoluer. Donc vous allez changer la pochette quand votre mec grade ou votre nana grade. Moi, en plus, j'ai une extension. Chaque mec a un petit background que vous allez explorer au fur et à mesure que vous allez. Enfin, c'est un gros jeu narratif. Hein. La méca principale du jeu, c'est de la narration. Vous découvrez l'univers et puis vous avez une mission à remplir. Mais c'est un vrai plaisir. Moi, je m'éclate sur le jeu. C'est vraiment des sensations. Je mets la musique de Dune en ce moment, deux en background, et j'adore ce truc. Donc, c'est évident que je vais jamais vous y faire jouer parce que je pense que, à la limite, peut-être David, mais je suis pas certain. Mais on est sur un vrai jeu narratif, donc je pense que vous allez pas prendre votre pied. Mais c'est des sensations qui sont uniques. Moi, je trouve ça nulle part ailleurs. La comparaison que je pourrais éventuellement avoir, c'est Until Grail. Mais dans Until Grail, il y a pas ce côté gestion du vaisseau qui est vraiment à part là-dedans. Et il y a des menhirs. Effectivement.
T'as jamais eu fait des jeux narratifs avec aussi?
Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu narratif? Bah, le septième continent, si on le place dedans. C'est mais juste, très juste. Franchement, moi, j'adorerais avoir le temps de m'installer puis de jouer à ce genre de jeu, ou qu'on puisse se retrouver deux fois par semaine à jouer à ça, toi, en mode adolescent, qui n'a rien d'autre à faire que de venir les uns chez les autres pour y jouer. Donc, j'aimerais beaucoup. Et là, j'ai déjà eu la réponse, mais en t'entendant expliquer le jeu, j'avais l'impression, quoi, dans ma tête, je me disais, mais finalement, ils ont fait un jeu vidéo en jeu plateau, mais toi, t'as quand même vraiment ce plaisir à manipuler tout ce matériel, parce que des fois, il y a dans certains jeux, t'as envie de dire, ouais, mais finalement, est-ce que c'est pas trop pour un jeu sur table, entre guillemets, un jeu de société? Mais non, j'ai pas l'impression, parce que c'est du plaisir à manipuler tout ça, c'est bien fait, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, putain, il y a presque certains trucs qu'on pourrait mettre sur un iPad, et puis tu gagnes de la place sur ta table. Mais effectivement, moi, ce que je trouve top, c'est de bouger la carte de sa petite pochette. De malgré tout, le lancer de dés, il est cool. J'ai en plus la tour à dés d'ISS Vanguard, donc tu vois, moi je trouve que le jeu est unique. Est-ce que je vais l'aimer jusqu'au bout? J'en sais rien. J'ai effectivement cette crainte que ce soit répétitif sur X partie de tourner tes pages.
Mais bon, c'était pareil dans Tintin Girl.
Oui, c'est sûr, mais Tintin Girl, il n'y avait pas ce côté gestion de vaisseau.
Bon, c'est pas comme s'il l'avait fini non plus.
J'ai fini la boîte de base.
T'as quelques autres boîtes.
La moitié d'une deuxième campagne.
Ah, c'est quand même pas mal. C'est respectable.
Mais effectivement, là, j'ai juste cette campagne-là, et puis j'ai la deuxième qui arrivera en stretch goal, donc dans 2 ans. J'ai très envie d'avancer.
Ah, 2 ans, ça va.
Oh, bah, je pense, oui.
Ah oui, c'est bon, j'ai le temps.
J'imagine.
Il a le temps de reneiger, quoi.
Non, c'est pas mal. Mais voilà, c'est en tout cas, ça répond à mes attentes, clairement. Vous savez, je vous avais dit, je suis pas dans une phase narrative, j'ai peur de m'emmerder. Clairement, je m'emmerde pas. J'ai actuellement qu'une envie, c'est de le rejouer, laissant de côté d'autres jeux par ailleurs que faudrait tester aussi. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Bah, rendez-vous dans ces prochains épisodes.
Vous pouvez noter dans votre calendrier la mort donc de Voidfall, qui ne parlera plus jamais parce qu'il a été remplacé par
non. On n'est pas sur le même truc.
Attends, laisse-le acheter une autre table.
C'est clair. Pour pouvoir les placer.
Franchement, j'hésite, parce qu'en ce moment, c'est limite dans mon sous-sol.
Et tu sais ce que tu fais? Et après, tu prends une chaise à roulettes, puis tu te pousses de table en table comme ça. Tu joues à tes différents jeux. Un petit coup par-ci,
avec des mecs qui jouent lentement comme toi, je pourrais le faire, remarque.
En solo, t'as pas besoin de moi.
Mais tu me manques.
Bon, David, c'est bon. Finis ce segment avec.
Moi je vais continuer dans mes jeux, la mécanique est inspirée de la volée, avec un assez gros jeu, enfin un jeu initié, on va dire, de Bruno Catala, qui est Five Tribes.
Tu l'as testé?
Mais oui, bien sûr.
Ah, mais dis donc, copineau.
Je l'ai joué jeudi soir parce qu'il fallait que je le connaisse pour venir ici. Donc, à la maison, donc je suis rentré du travail et j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais ce soir, il faut jouer à Five Tribes. Il n'y a pas le choix parce que je dois le savoir pour demain.
La famille de David.
Alors, Marjorie était déjà dans sa chambre en train de, je sais pas trop quoi faire, et il restait Noémie et mon épouse, puis elles ont dit, ok, on va jouer avec toi. Donc on a mangé, et ensuite on a joué à Five Tribes, et Noémie nous a mis une misère sur Five Tribes.
Donc c'était bon, la plus jeune.
Et ce qui était magnifique, je vous dis, c'est que le dernier coup du jeu, c'était Cindy qui allait le faire. Après, on voyait qu'on pouvait plus bouger. Elle fait son coup. Puis Noémie, elle lui fait, t'es sûr que tu veux faire ça, maman? Je lui dis, oui, pourquoi? Bah, parce que regarde, elle reprend les pions. Si t'avais fait ça, bah, c'était mieux pour toi. Et puis, on l'a regardé, puis j'ai
J'imagine
fait,
la fierté dans le regard de David.
Et Cindy, a quand même dit, écoute, vu que t'as vu ça, Je te laisse jouer avant moi, parce qu'en fait elle pouvait plus faire son coup après Noémie, parce qu'elle pouvait plus jouer, les règles font qu'elle pouvait plus jouer. Et elle a joué, et bon, elle a gagné en partie peut-être grâce à ça, mais c'était amplement mérité parce qu'elle l'a très bien compris. Alors pourquoi c'est la mécanique de la Willy, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce que Five Tribes, donc on a 30 tuiles, donc 6 lignes de 5 ou inversement, on s'en fiche. Et sur chacune de ces tuiles, il y a 3 meeples. Donc les meeples ont des couleurs différentes, on les met de façon aléatoire sur ces tuiles. Et puis, à tour de rôle, on va choisir une tuile. on va prendre les meeples qui se trouvent dessus. Donc au début il y en a trois, mais petit à petit bien sûr que ça va changer. Et on va devoir les égrener comme dans la wellée, donc en posant un meeple sur chaque tuile qu'on va parcourir. La seule condition, c'est que le dernier meeple qu'on va poser sur une tuile doit être d'une même couleur qu'un meeple déjà présent. Donc imaginons que je pose un blanc sur une tuile où il y a déjà un blanc. Je vais prendre ces deux meeples blancs. Chaque couleur de meeple a une action en particulier. Donc si je peux la faire, je vais la faire. Enfin, si j'en ai envie, parce que c'est rarement obligatoire. Et puis chaque tuile a également une action. Donc on va également la faire par obligation ou la faire si on le décide. Et donc c'est un mix entre... Bah, les actions des meeples pour gagner de l'argent qui après sont des points de victoire en fin de partie. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au début de chaque tour, on va devoir miser pour définir l'ordre du tour. Et c'est là où Cindy lui a dit, bah écoute, on va partir du principe que t'as misé plus. Elle a dit à ma fille, t'as misé plus pour jouer avant moi, puis comme ça tu peux faire ce tour, parce qu'elle avait décidé de pas miser et de jouer en dernier. Ce qui l'a quand même pas mal aidé à gagner, parce que finalement moi j'ai beaucoup dépensé pour jouer en premier, et comme j'optimisais pas forcément mes coups pour pas que ça dure une plombe, eh bien elle a quand même pas mal emmagasiné. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup en fait ce concept d'égrenage sur ce type de jeu. Je pourrais vous parler aussi peut-être plus tard dans cet épisode ou un autre jour de Pour une poignée de meeple, qui a également cette sensation là mais franchement j'ai beaucoup aimé ce Five Tribes. Il y a aussi des ressources, des marchandises qu'on va pouvoir prendre si on a des meeple marchands. On a également des jeans, hein, donc qui se boit pas là par contre.
Oui.
Voilà, comment est-ce qu'on peut définir
des
un
génies,
jean
des mauvais génies
qui vont nous donner des pouvoirs qui peuvent être très très forts d'ailleurs, qu'on peut utiliser à chacun de nos tours. Donc à mon avis c'est vraiment un jeu où on peut également avoir une grosse montée en puissance, voire rusher, hein, presque en course, parce qu'à un moment donné, si on peut plus bouger les meeples, ou si on a placé tous nos chameaux, ça je vais zapper l'explication des chameaux, mais les chameaux en fait ça, non, je vais pas le zapper. Dès qu'on peut vider une tuile de ces meeples, par exemple il y a qu'un meeple blanc, j'apporte un meeple blanc, je prends les deux, il n'y a plus de meeple, je vais prendre un de mes chameaux, je vais mettre sur cette tuile, et cette tuile va m'appartenir et me faire gagner des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Bien entendu, j'en doutais pas trop, hein, chez Days of Wonder. Et puis voilà, on en parle depuis très longtemps, hein, c'est 2014. Je l'ai enfin testé et approuvé. Donc cool. Je me réjouis d'y rejouer, et même pourquoi pas tous ensemble, parce que très plaisant.
Il doit être là.
Oui, il est même en plusieurs exemplaires. Et également du côté du musée, on l'a tout neuf, il est joué qu'une fois.
Parfait. Ben alors on se retrouve dans quelques heures.
Allez, c'est
avec
parti,
plaisir, on va jouer.
On est de retour avec les auteurs de Nekojima, David Carmona et Karen Nguyen.
C'est
juste parfait.
Exactement.
Donc, parce que ben, vous êtes à l'UDESCO pour accepter le prix du Swiss Gamers Award Famille. Donc, comment vous sentez d'avoir gagné ce prix?
On est très honorés. Ouais. Ça nous a vraiment refait la journée d'avoir ce Swiss Gamers Award. Nous, ça nous récompense effectivement dans notre travail, déjà en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur.
C'est vrai qu'en plus, c'est une récompense qui a un poids assez conséquent, parce que quand on sait qui a voté pour les Swiss Gamers Awards, c'est d'autant plus plaisant, c'est d'autant plus reconnaissant pour nous, dans le sens où voilà, c'est les ludothèques, plus les clubs de jeux, les joueurs qui ont voté, donc c'est d'autant plus valorisant pour nous ce que l'on fait dans notre métier tous les jours.
Oui, et puis tu viens de parler, Karen, du fait que c'est de l'auto-édition.
C'est ça.
Est-ce que vous voulez un peu nous expliquer votre parcours pour les gens peut-être qui ne savent pas un peu l'histoire derrière Nekojima?
Alors, nous, on a commencé cette aventure avec un premier jeu qui s'appelle Virus War. On a fait une campagne de financement et on nous a lancé justement dans ce parcours éditorial. Et puis après, on a lancé Nekojima suite à ce premier projet.
Et puis, vas-y.
En fait, ce que Karen n'a pas dit vraiment dans le fond, c'est que nous, on n'est pas du tout issus du monde du jeu. En fait, avec Karen, on s'est rencontrés en 2018 sur un sommet dans l'Himalaya, dans les Annapurna. Et en fait, nos chemins sont croisés à ce moment-là. Et en rentrant en France, on n'avait pas envie de travailler pour quelqu'un. On voulait vraiment créer quelque chose nous-mêmes. Et en fait, en juin 2019, j'ai fait un rêve et j'ai rêvé d'un jeu qui s'appelle Virus War. C'est notre premier jeu sorti.
Okay.
Et en fait, on s'est pris au jeu la journée. Karen et moi-même avons écrit les règles dans un parc. Et c'est comme ça que l'aventure, en fait, a commencé, quoi.
Voilà, mais Virus War.
Comment tu peux créer un jeu si vous n'êtes pas issu du monde? Mais vous étiez quand même des joueurs, alors?
Non, pas du tout. On était vraiment des joueurs, des non-joueurs, parce qu'on connaissait, comme tout le monde, le Uno et le Monopoly. Donc, on avait une culture ludique qui était très, très limitée. Mais c'était vraiment suite à ce rêve que l'on a créé, justement, Virus War. Et Virus War, je tiens à préciser qu'il a été créé avant la pandémie.
Ah oui,
ah oui.
Donc, ça fait beaucoup de coïncidences.
J'avais pas fait le rapprochement.
Ouais, donc ça veut dire que des fois j'ai l'impression qu'il y a même des vrais auteurs issus du monde du jeu qui ont de la peine à écrire des règles, mais vous, vous en écriviez même avant d'être à fond dans le monde du jeu, quoi.
Il les a rêvés.
En plus, tu les as rêvés, mais c'était quoi comme rêve, en fait? Donc t'as rêvé à quoi? À la thématique? À la mécanique?
En fait, pour moi, dans mon rêve, tout était hyper clair, que ce soit la mécanique, la thématique du jeu. Et c'est pour ça que j'avais déjà toutes les règles en tête quasiment le matin en réveil. Quand j'en parle à Karen, bien évidemment, il y a des règles qui ont été un petit peu peaufinées. Mais en gros, c'était plus qu'un rêve prémonitoire, parce que c'était déjà écrit dans mon cerveau, quoi.
Ne cherchez plus l'origine du Covid.
On l'a trouvé, quoi. C'était un rêve. Non, et puis, bon, qui a rêvé à Neko Jima, alors?
Ah, personne n'a rêvé de Neko Jima.
Pour le coup, l'idée, elle vous est venue comment? Parce qu'on est sur un jeu qui est extrêmement original. On vient de le tester, on vous donnera notre avis après. Mais c'est un jeu assez unique dans son genre, quand même.
En fait, c'est vrai que Neko Jima, c'est un peu un only, on appelle ça comme ça, un peu dans le monde du geek. Mais en fait, on était vraiment en rénovation de maison dans le Vercors. Donc on avait cette pensée de construction, tout ça. Et puis on voulait vraiment faire un jeu qui alliait en fait les deux mains. Et c'est vrai qu'en en superposant des tourillons qu'on avait en diamètre 18, hein, pour ceux qui veulent reproduire du Kojima à la maison, et ben du coup on s'est aperçu que ça marchait bien au niveau de l'adresse. Et avec Karen, on s'est dit mais on pourrait relier ça par une corde. Donc avec de la corde à Norac, on a commencé à percer avec une perceuse à colonne des trous, et on a relié nos deux poteaux, et en fait en les regardant, on s'est dit mais c'est des poteaux électriques, quoi.
Ouais.
Et bon, Karen, de par ses origines vietnamiennes,
on s'est dit, bah, on va installer le décor en Asie. Ouais. On a voulu suspendre des choses sur les câbles. On s'est dit, bah, pourquoi pas du linge, des oiseaux. Et puis, on est resté sur les idées de suspendre des chats. Mmh. On avait également connaissance des îles des chats, les Neko Jima au Japon, oui, qui existent réellement. Donc, à savoir, il y a 20 îles, 20 Neko Jima au Japon.
Donc, Neko Jima, ça veut dire île des chats.
C'est ça, Neko Jima, pour Neko, chat, Jima, île.
Ok.
Ce que je trouve vraiment sympa aussi par rapport à un Jenga qui a également quelques règles, mais là c'est que vous avez amené aussi tout un côté ludique avec des dés qui nous imposent des contraintes de pose entre des zones, mais également suivant le résultat du dé, bah, c'est notre voisin qui va nous définir une des zones. On va pouvoir, si on est en mode compétitif, si on tire, on va pas entrer trop dans le détail, mais si on tire un cube noir, on va le donner à un de nos adversaires qui sera contraint de suspendre un chat. Donc il y a vraiment tout ce côté jeu qui fait qu'il y a une tension, puis qu'il se passe réellement quelque chose autour de la table par rapport à d'autres jeux de construction plus classiques.
Complètement, en fait, c'est vrai que moi personnellement, et je sais que Karen elle partage un peu le même point de vue, c'est qu'on aime bien en fait la liberté. Alors c'est vrai qu'il y a quelques restrictions dans Neko Jima, le fait que rien ne doit se toucher, etc. Ouais. Mais en fait, au-delà de ça, on est vachement libre. Ouais. Et on s'en rend compte quand on y joue. On peut poser les poteaux dans des quartiers, les superposer les uns sur les autres, etc. Et c'est vrai que du coup, on a cette espèce de liberté aussi de choix de jouer en coopération ou en compétition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on affectionne aussi. Parce que c'est vrai, pourquoi limiter simplement un jeu à de la compète ou à de la coop? Parce qu'on voulait vraiment que ça s'adresse à tout type de public.
Bah, c'est très intéressant parce que justement, bon, vous avez gagné le prix famille, si on veut, mais en fait, c'est un jeu que... Moi, j'ai pas d'enfant, mais ça, c'est réglé. Mais je veux dire, moi, je me verrais jouer à ça avec des potes, tu vois, même plus vieux. Il y a pas vraiment ce côté où c'est un jeu pour enfants. C'est un jeu qui se joue avec des enfants, bien sûr. Mais tu vois, nous, on a joué quatre adultes, et puis je vois sur votre boîte, il est écrit dextérité, tactique et fun, mais oui. Moi je retiens surtout fun en fait.
Oui.
Pendant ce côté, des fois on se parle.
Oui, mais c'est parce que t'as pas retenu dextérité que t'as perdu aussi.
Non, parce que si tu te tiens, c'est toi qui as perdu
comment. Ah oui, merde.
Mais oui, non, il y a vraiment ce côté où en fait, je vous ai dit quand je suis arrivé, j'ai dit, mais moi je suis stressé là. Mais vrai, les poteaux sont tellement hauts, puis la table à bouche, puis t'as ce côté vraiment fun du jeu. Puis nous, c'est vrai qu'avec ce podcast et tout, souvent on se parle dans des grosses règles de jeu, des jeux experts. Puis tu dis, mais en fait, le jeu c'est ça au final. C'est sensation de fun, puis de dire, ah mais toi tu vas perdre et tout.
Moi j'ai beaucoup aimé. C'est beau ce que tu dis.
On va dire que la seule contrainte, c'est un peu la table sur laquelle on va y jouer. Parce qu'on a vu, on a commencé une première partie, il y a eu un petit coup donné par nos voisins dans la table, tout s'est effondré. Donc évitez peut-être la table de pique-nique sur un terrain pas très plat. Assurez bien
la table. C'est l'extension table de pique-nique.
Prévenez tous ceux qui sont autour de la table et qui ne jouent pas au jeu de rester à distance de la table. Non, sinon c'est super.
Et puis sur le plan éditorial, j'avais juste une petite question. Vous êtes passé sur KS, hein, c'est juste?
Oui, tout à fait.
Et puis pourquoi il y a eu ce choix-là, finalement, de ne pas passer par le parcours éditorial boutique?
Parce que Nekojima, c'est quand même un gros projet. Du coup, il nous fallait des fonds pour pouvoir produire un tel projet. Nekojima, c'est un jeu qui est produit avec un matériel en bois.
Oui.
Donc, ça a été un vrai challenge pour nous, déjà, de proposer un prix attractif à moins de 40 euros pour toutes les familles. Et on voulait vraiment proposer ce prix-là. Donc, pour ce faire, il a fallu qu'on puisse avoir les fonds nécessaires pour produire la production et faire assez de boîtes. Donc d'où la campagne Kickstarter.
Ok. Oui, c'est vrai que c'est hyper qualitatif pour le coup, éditorialement parlant, parce que là, nous, la boîte qu'on a, c'est la boîte qui actuellement est vendue en boutique.
Oui, tout à fait.
Ok. Et la version Kickstarter, elle rajoute quoi?
La version Kickstarter, du coup, on a deux pledges différents. Okay. On a une version qui comprend la boîte standard plus quatre extensions.
Okay.
On va avoir dans la version collector la boîte en bois. Et également un Tori qui va faire office d'obstacle, plus bien sûr les extensions.
Ok, d'accord. Parce que déjà, la boîte de boutique, hein, je le redis, mais c'est hyper qualitatif. Effectivement, tous les poteaux sont en bois. La corde, c'est pas de la cordelette, quoi. C'est vraiment une corde assez épaisse. C'est du super beau matériel.
Complètement. Et puis, à vrai dire, la version boutique, elle se suffit amplement à elle-même. Ouais. Sincèrement, il y a vraiment de quoi avoir une rejouabilité énorme sur le jeu. Mais c'est vrai que, bon, pour remercier les backers de Kickstarter, on a vraiment décidé de mettre le paquet et d'ajouter en fait plein de modules un peu supplémentaires. Mais on voulait que chaque élément dans le jeu ait une utilité. Ouais. Par exemple, la boîte en bois de la version collector est un gameplay. Le Tori est un gameplay. Tout est un gameplay en fait.
La boîte en bois est un gameplay.
Tout à fait. En fait, vous pouvez jouer sur la boîte en bois. Vous avez placé le plateau au milieu. En fait, il y a une gravure laser. Et sur les quatre coins, il y a également les icônes qui représentent du coup les icônes du quartier. On va pouvoir jouer sur les coins.
Moi, j'avoue qu'après ces deux parties, ma plus grande frustration, c'est d'être passé à côté de cette campagne KS. Parce que c'est justement, finalement, pour soutenir des projets comme ça que ces financements participatifs existent.
Bon,
pour justement aider financièrement pour sortir un produit de cette qualité-là. Et c'est vrai que là, j'ai vu toute une série d'extensions. Alors, bien entendu, comme tu dis, ça suffit à soi-même. Puis c'est juste ce côté où on en veut toujours plus, même si on l'utilise pas. Mais en tout cas, c'est un jeu
pour le coup, on en avait parlé sur le podcast quand on avait invité Arnaud Chablot, notre pote, qui avait repéré le jeu très tôt.
Juste,
et c'était le moment où la campagne était allée ou était en cours. Et Arnaud avait dit que lui, il l'avait backé, il allait le backer et il l'a backé. Vous remettez les verbes que je viens d'utiliser dans le bon ordre pour que ce soit cohérent. Mais en tout cas, on en avait parlé, effectivement, et nous, on n'en avait pas entendu parler. La campagne était encore au début, je pense. Et c'est vrai que lui était hyper enthousiaste, sachant qu'il est auteur en plus. Il dit, c'est vraiment un OVNI, effectivement, très original. Et une petite maison, enfin voilà, il y avait tout le... Comme tu dis extrêmement bien, mon cher Maski, mon cher David, il y avait vraiment tout ce qui plaît dans Kickstarter. On a vraiment l'impression de soutenir un petit projet, de le faire grandir. C'était hyper
plaisant. Donc tu m'annonces qu'il y a une boîte KS, alors je sais pas laquelle, qui se trouve pas loin d'ici.
Alors écoute, elle est
dans un appartement à Fontainebleau. C'est tout près d'ici, si jamais. Donc.
Parce qu'on a appris qu'il n'y a plus de boîte KS. C'est juste tout a été vendu.
Effectivement, il n'y a plus de boîte Kickstarter.
Donc ça, vous les avez tous vendus à Cannes?
C'était les dernières boîtes qui ont été
écoulées. Qui vous restaient. Ouais. On y était, mais on ne l'a pas vu. Quoi. À quel point est-ce que, parce que vous avez dit que c'est pas votre premier jeu, mais Virus War a quand même connu un moins gros succès que Nekojima. Est-ce que là, ça vous met la pression sur votre prochain jeu qui est Dungeon Maze?
Dungeon Exit, c'est ça.
Exit,
ça met quand même la pression.
Quand même.
Tout à fait, parce que les gens attendent justement le prochain jeu. Ils sont très curieux de ce que l'on pourrait proposer après un Nekojima.
Ouais. Est-ce que ça vous force à devoir faire des OVNI encore, ou est-ce que vous pourriez tomber dans le plus traditionnel?
On aime faire du original, Et on espère que justement la prochaine sortie puisse beaucoup justement plaire au public. On a des bons retours, donc on est assez confiants également.
Parce qu'en plus, nous, de ce qu'on a vu à Cannes, bon, j'ai rien vu sur le jeu, mais j'ai juste vu que le matériel, ça, on avait des tuiles qui étaient donc aimantisées. Donc,
aimantées,
c'est ça. Voilà. On va avoir des tuiles aimantées, recto-verso, avec des plateaux. En fait, Dungeon Exit, c'est un jeu de logique et de gestion de l'espace. C'est pour ça que c'était pour nous important d'avoir un matériel qui soit joli, d'où les pièces aimantées, pour qu'on puisse avoir une sensation de jeu agréable.
Ouais. En fait, en gros, on sera dans un donjon. Et dans l'ordre, il faudra passer de la porte, clé, coffre, monstre, exit. Pour ça, on aura 14 polyominos avec des formes différentes. Il faudra du coup les assembler sur le plateau pour réussir en fait les 150 défis qui seront proposés dans le jeu. On pourra jouer seul ou à deux, et à deux en coopération ou en compétition. Il y aura aussi un système d'escalier qui nous emmènera en fait du niveau inférieur au niveau supérieur. Donc ça va être un jeu assez sympa où il faudra vraiment faire marcher ses neurones et son observation.
Et puis ça, ce sera sur Kickstarter ou pour le coup vous repassez par la tradition?
Non, on ne fera pas de Kickstarter pour The Dungeon
Exit. Ok, ok. Donc il n'y aura pas de reprint de Nekojima Kickstarter?
Non.
Je tente.
Pour le moment, c'est vrai que en fait Kickstarter, ça représente un travail tellement énorme et vraiment là, on l'a vraiment vécu plein fouet sur la dernière campagne de Nekojima avec Karen. On était fatigué à la fin de cette campagne-là, mais vraiment c'était très 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 épuisant. On avait mis déjà du temps pour la lancer parce qu'on avait fait tout un travail de communication pendant presque plus d'un an. En fait, à faire tous les festivals de France pour communiquer sur le jeu, on avait vraiment mis notre vie en mode off pour se consacrer entièrement à ça. Donc ça a très bien marché, on est très très content et puis on remercie vraiment tout le monde, etc. Et mais c'est vrai que derrière, on en est ressorti complètement épuisé. Et à deux, c'est vrai qu'on gère tout. On fait tout ce qui est la 3D, la direction artistique, la commercialisation, la fabrication, la logistique, les créations de mécaniques, etc. Donc,
du coup, les illustrations, c'est aussi vous ?
Non. Les illustrations, elles sont faites par un illustrateur français, c'est Gilles Wormoz.
Ok.
Mais sinon, tout le reste du job, c'est vous qui avez géré intégralement ?
C'est ça.
Ok. Tous les deux ?
Tous les deux.
Il n'y a personne d'autre.
Vous avez toute l'équipe.
Tout ce qui est vidéo, vidéo, photo, tout est géré entre Karine et moi. Quoi.
Ok, bon.
Et pour le futur jeu, il est prévu pour quand ?
Ce sera pour l'automne prochain.
Super. Et puis vous êtes venu avec un proto dans les poches, bien entendu.
Qu'est-ce que vous allez nous laisser ?
On a vraiment très très peu de prototypes de ce jeu là, mais on a un petit proto dans les poches, ouais, effectivement.
Ah,
on vous présentera ça demain, je pense.
Magnifique. Moi j'avais entendu, tu vois, bien sûr, quand on parlait de Cannes, on parlait de L'As d'Or. J'ai eu beaucoup de retours, même avant d'avoir joué à Nekojima, quand je regardais des vidéos, les gens disaient ouais, moi je pense que Nekojima, il y a des chances qu'il sorte. Est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous étiez excité à cette idée-là ou vous essayez de faire obstruction à ça? Ou j'imagine que pour vous en plus, petite auto-édition et tout, ça aurait été chouette d'avoir cette nomination à S'D'Or. Est-ce que pour vous c'est une déception? Est-ce que vous êtes juste content d'avoir été un peu dans la discussion? Vous le vivez comment?
En fait, nous on a été on n'était pas vraiment. Bien sûr on a été un petit peu triste de pas faire partie des nominés, mais j'imagine comme les plus de 80 maisons d'édition françaises.
Oui, bien sûr.
Mais par contre, en revanche, effectivement, on était hyper heureux de l'engouement de la part de la communauté ludique, que ce soit sur les groupes Facebook, sur Instagram. On a reçu énormément de messages de soutien sur YouTube, tout ça. Enfin, beaucoup de gens ont mentionné effectivement Nekojima, et pour nous, ça déjà, c'était une réussite.
Oui.
Après, voilà, on fait confiance au jury. Si on n'a pas réussi cette année-là, on fera mieux l'année prochaine.
Mais bien sûr.
Mais en tout cas, être As d'Or dans le cœur de plusieurs joueurs, ça a été aussi une forme de victoire.
Mais c'est vrai que je l'aurais bien vu à la place de Per Falkward. Tiens, allez, on croit. Hein, parce que là, il y a vraiment ce côté fun. On a l'impression que Per Falkward, finalement, il a été nominé, mais personne n'en a trop parlé. C'est un peu en mode vient ensuite, alors que voilà, il y a vraiment du renouveau. Enfin, on va pas critiquer, mais un peu quand même.
Vous en pensez quoi? Vous voulez chier sur un jeu? C'est le temps, c'est la plateforme. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir de faire cette partie et puis de pouvoir vous rencontrer en vrai. Donc Nekojima en boutique partout
boutique, parce qu'il a été on a souffert un peu pour pouvoir le tester parce qu'il était plus plus disponible nulle part, mais là il est de retour. Donc allez-y foncez parce qu'on a vraiment adoré. Et là on voit derrière là ça joue, c'est tendu là, ça commence à grimper là. Ah oui, les visages.
Et puis bah, félicitations encore pour votre prix de Swiss Gamers Award Family.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et puis merci à vous tous de nous avoir invités aujourd'hui dans votre podcast. Ça nous fait très plaisir.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Bon, on est de retour. Il est rendu, il est quoi, il est
29 minuit 45. On est bourré.
Oh, vous avez entendu la belle
David,
voix douce.
David a changé de voix, t'as vu. Vas-y, David, ça va, David.
Comment ça va, David? Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Il parle plus que ça, David. Ça
oui, je sais.
Donc, on a remplacé David par notre cher Mims National. Comment ça va, Mims?
Ça va bien. Et vous, les garçons?
Ah bah nous, on l'a déjà dit, hein, puisqu'on a commencé l'épisode.
Mais excuse-moi de prendre tes nouvelles.
C'est ça, est-ce que ça va encore bien? C'est une question très importante.
Mais oui!
Ça joue!
Donc, ça joue bien!
David est parti, il a dit je reviens dans 30 minutes, ça fait 2 heures. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Je sais pas.
Du mais coup, on vous annonce le remplacement officiel de David par Mims.
Yes.
On a toujours voulu ce moment. Il est arrivé. Moi, je pensais que ça allait être remplacé Benji.
Et
bah
oui,
bon.
C'est pour ça
que
je saute sur l'occasion.
On n'a pas misé sur le bon poulain.
Et voilà.
Et c'est d'ailleurs, j'allais dire, c'est la première fois que vous enregistrez ensemble, mais non, on avait fait les 4 ensemble une fois.
Exactement.
Donc, on va parler de jeux qu'on a joué. Aujourd'hui à l'UDESCO.
Allez.
On va peut-être faire un petit tour de table comme ça. Puis peut-être que d'ici à ce qu'on fasse le tour de la table, David va se greffer à nous.
C'est possible.
Donc Benji, je te laisse commencer.
Allez, moi j'avais envie de vous parler de quoi du coup?
La cathédrale rouge.
La cathédrale rouge, effectivement. Oh, il est là, regarde-moi cet enculé.
Ah bah bien sûr, on l'a provoqué.
On a crié le... Il suffit de dire on t'a remplacé et puis
il arrive en courant quoi.
Mais vas-y, parle-nous de
alors,
la cathédrale rouge.
J'ai testé effectivement la cathédrale rouge dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment par Maski qui l'avait testé l'année dernière au week-end de Onjoutu. Et puis on en avait reparlé au moment de la sortie du Château Blanc puisque ce sont les mêmes auteurs, effectivement. Ouais. Ouais, auteurs, effectivement. Très bonne sensation. Je l'ai trouvé assez intéressant parce que vous avez un objectif principal qui est de construire une cathédrale. Et puis vous allez jouer ensemble en fait pour construire cette cathédrale. Mais bien sûr, comme ce n'est pas un jeu collaboratif mais coopétitif, compétitif. Attends, j'attends.
C'est compétitif.
Non, justement.
Il y a quelques bières, hein, je tiens à préciser.
Complètement compétitif. Attends, je le laisse s'asseoir.
Je t'ai jamais vu débousseler comme ça.
Il arrive. Regarde-le.
Ah, c'est sympa, ça fait plaisir, quoi. On voit qu'il y en a qui bossent.
He's back.
Donc, on t'avait parlé de la cathédrale rouge. Ah ouais, non, je sais pas, je connais pas.
Bonjour, David.
Et puis, vous avez ensuite un système de choix de ressources. Dans lesquels vous allez choisir un dé, faire tourner un dé autour d'une roue, et puis c'est ça qui vous permet de choisir vos ressources, qui vont vous permettre de construire les parties de la cathédrale que vous avez réservées. Très bonne sensation, un jeu qui n'est pas compliqué en soi, mais qui fait, un des seuls défauts que je pourrais peut-être lui trouver, qui n'est pas forcément un défaut d'ailleurs, mais c'est le côté un peu analysis-paralysis, parce que t'es beaucoup en train de compter, parce que tu fais bouger ton dé en fonction de la valeur qu'il a, et c'est ça qui te dit où il va au prochain tour, et donc quelles ressources tu récupères. Et ça, forcément, il y a des moments où, tu poirotes un peu parce que tu sais pas, tu comptes, tu recomptes, etc. Mais c'est un pseudo défaut parce que voilà, ça n'a pas non plus duré des heures et des heures notre partie. Et j'ai vraiment trouvé ça très appréciable. Je l'ai trouvé un tout petit peu moins joli que Château Blanc. Alors excuse-moi, je fais la comparaison, mais en termes d'édition, je trouve Château Blanc est vraiment absolument magnifique. La cathédrale rouge est un peu plus banale, je trouve. Les ressources sont assez classiques. La cathédrale en elle-même n'est pas particulièrement jolie, je trouve. Donc
toi non plus en même temps, c'est pas très joli, mais t'es quand même avec nous quoi.
Je voyais que t'allais dire une connerie, je te voyais à ta tronche.
Ok, non, mais donc en termes de gameplay,
en termes de gameplay, c'est très sympa. Ah,
si on fait la comparaison, bien sûr.
Je pense que Château Blanc est meilleur. Par contre, Château Blanc est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus frustrant. La cathédrale rouge est frustrante aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont, cette tendance dans cette collection à être dans la frustration. Et Maski disait que c'était pas un problème. Il faut aimer la frustration, mais je pense que Château Blanc est plus frustrant. Le gameplay est quand même meilleur, je trouve, dans Château Blanc.
Ok.
Mais je dis ça, on parle de bons jeux, hein. C'est la cathédrale rouge est très cool aussi.
Alright. Bah alors à toi, Mims, de nous parler d'un jeu que tu as découvert aujourd'hui ou un jeu que tu as aimé de jouer aujourd'hui.
Ouais, alors vous en avez parlé avant, mais j'ai rejoué à Nekojima pendant que vous enregistriez. Ouais. Donc c'était de nouveau un plaisir. Moi je l'ai découvert il y a assez tardivement avec Loïc Déo Plateau qui me l'a fait découvrir, donc c'est toujours un plaisir. Mais j'ai pas découvert de nouveaux jeux. Donc,
ah non, aujourd'hui t'as joué avec que...
Ah non, c'est pas vrai, il y a le jeu que tu m'as fait tester, là, ce vieux truc.
Mon prototype ?
Non.
Ah oui, on a joué à Kauna.
La double.
Voilà, Kauna. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, mais qui date quand même de 2000.
Si... Toi, tu connais Kaona?
Non, combien?
Je pense qu'ils sont BGA, hein.
Ça me dit rien du tout.
C'est quoi déjà? Oui,
c'est un jeu de joueurs avec les îles.
Ah oui, bien sûr, oui, oui, les îles polynésiennes et tout ça. Oui, oui, c'est très sympa. Mais c'est un jeu qui a pas mal d'années, exactement.
C'est 2007,
c'est un bon jeu à deux. Par contre, là, si tu joues contre quelqu'un qui le maîtrise bien,
ah, tu te fais rouler,
c'est comme dans les jeux abstraits, tu te fais vraiment rouler dessus.
Ouais, exactement. Ouais, c'est la seule découverte en fait d'aujourd'hui. Et puis on a refait une partie de Heat.
Tu nous as roulé dessus, littéralement,
exactement. Et oui, alors ça pour moi, c'est vraiment le, à chaque fois un coup de cœur dans ce festival.
Hein,
c'est vraiment
fun,
cool.
Ouais. C'est vrai qu'en plus, on a joué à 6. T'as pas l'impression que c'est plus long à 6?
Non, ça, je crois pas. C'est fluide, ça va vite. On avait les beaux bruits de Benji. Là, je sais pas si tu peux nous en faire.
C'est pas très bon.
Qui a saoulé beaucoup de gens autour de la table.
Voilà, donc on a fait une heure de bruitage de Benji.
Combien de dimanches j'ai dormi devant la Formule 1, tu sais, au bout d'un moment,
ça va.
Ah oui, bah oui, tu dors devant un gros prix là, c'est tout la chouette.
Alright, donc Nekojima et puis Kaona.
Exactement.
On s'est fait la réflexion en fait que Kaona, ce qui est drôle, moi je voulais te le montrer parce que c'est un des premiers jeux à deux que j'avais découvert moi il y a longtemps. Et en fait, c'est drôle qu'on a fait la réflexion que les vieux jeux comme ça, on dirait qu'il n'y a qu'une mécanique dans le jeu.
T'sais. Oui, c'est ça.
Ils se sont dit, écoute, c'est du contrôle de territoire, puis go. Alors que maintenant, on se casse le cul à essayer de trouver. Ah, mais non, mais là, il faudrait qu'il y ait ci, puis ça dans le jeu, puis il faut que ce soit original. À l'époque, c'était vraiment. Voilà. Ça vous intéresse, les gars, ou.
Vraiment, ils sont juste les deux sur le téléphone.
Pour la France.
Ah, ouais, bon. Sport de merde. David, tu nous parlais de quelque chose?
Qu'est-ce que t'as testé?
Oui, bah en fait, moi je vais continuer. Alors c'était pas aujourd'hui, hein, je triche un peu, mais c'était quand même pour le festival. Donc je continue dans mon histoire de la Wally, mais cette fois je vais vous parler de Pour une poignée de Meeple.
Ah oui.
Chez Super Meeple, en plus.
Bien sûr.
Un jeu. Alors j'aurais peut-être dû réviser un peu avant, mais c'est un jeu qui avait été créé pour être distribué avec un autre jeu dans une campagne KS. Donc c'est un peu le petit jeu qui était mis à côté. Qui finalement a dû intéresser suffisamment de monde pour qu'il décide de l'éditer et de le distribuer séparément. Et donc en français, c'est Super Meeple qui a fait ce Pour une poignée de Meeple. Et c'est vraiment un jeu, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, on a toute une série de différents Meeple, tout petits d'ailleurs, tout mignons, sur un plateau dans une rue style western. Vous voyez un peu ces rues, c'est magnifique.
Pas mal.
On choisit les meeples. On choisit les meeples qui se trouvent dans un bâtiment. Donc vous avez des ouvriers, vous avez des assassins, vous avez des adjoints de shérif, etc. Donc ils ont chacun une couleur. Vous les prenez dans un bâtiment et puis vous choisissez. Soit vous allez les égrener à gauche, soit à droite. Et puis chacun a une action particulière. Et ensuite vous décidez lequel vous allez activer en premier en le faisant entrer dans le bâtiment. Et en fonction des meeples qui se trouvent dans ce bâtiment, ça va vous faire gagner des ressources, ça va vous permettre de défier en tir, vous voyez, comment on appelle ça, les
duels.
Les duels, exactement. Le gagnant sera envoyé au saloon pour boire un coup, et le perdant au cimetière, bien entendu. Donc il y a un côté qui est très fun dans ce jeu. On retrouve parfaitement cet égrenage. Donc je vous recommande vivement de tester ce jeu fort sympathique de chez Super Meeple. Donc Pour une poignée de Meeple.
Beau ça.
C'est beau ça.
Moi j'ai découvert qu'un jeu aujourd'hui et puis c'était le premier jeu qu'on a fait, Planet Unknown.
Oui, c'est vrai.
Je pensais que vous en aviez parlé avant que j'arrive.
Mais en fait, je l'ai aussi découvert, je l'ai oublié, déjà.
Moi ça m'a fait plaisir que tu l'aies oublié parce que sinon j'aurais rien eu à dire. Donc,
Parce que pour le coup, nous on joue beaucoup avec Masky sur BGA depuis quelques semaines, moi, et j'avais assez envie de le tester en live, donc on l'a sorti parce que pour le coup on connaissait les règles.
Ça reste que. Alors, bon, je sais pas s'il faut vraiment que je revienne sur le gameplay parce qu'on en a parlé assez souvent dans le podcast, donc c'est vraiment un jeu de placement de tuiles avec des pistes. Je me rends compte que j'ai vraiment ce truc avec les jeux de placement de tuiles où j'ai peut-être des doigts maladroits, mais à chaque fois que je place un truc, j'en accroche trois et il y a des trucs qui tombent de tous les côtés. Puis là, je me dis, est-ce qu'elle était placée comme ça ou comme ça? Donc c'est le
petit côté. Comme quand tu ranges tes boîtes en même temps, parce que toi tu lances les trucs, toi. Donc au moment où il faut les placer délicatement, c'est peut-être plus compliqué.
Déjà, je te cherchais pas du tout, donc tu vas pas quoi, mec. Et puis donc, mais les sensations de jeu étaient très cool. En plus, j'ai gagné, hein, de ce que je me souviens.
Oui, oui, oui.
Au grand désespoir de Benji.
Tout à fait. Mathieu et moi qui connaissions le jeu avons fini bon dernier tous les deux.
Ouais. Ils voulaient même pas compter les points à la fin. T'as dit non, c'est bon.
On range.
Donc oui, non, mais après c'est vrai qu'il y a ce côté combo sur les pistes est très satisfaisant. Donc c'est cool. J'ai trouvé assez intéressant en fait le choix de où est-ce que tu places ce genre de plateau pour forcer les autres. Surtout, oui, c'est intéressant de regarder ce que moi je veux, mais aussi ce que je sais que mon adversaire ne veut pas. Ce que j'ai fait bien sûr avec Benji, of course.
Et ce que j'ai fait à l'inverse avec toi.
Of course. Voilà. Donc ça et Nekojima, ça a été les deux découvertes. Mais bon, t'as déjà parlé de Nekojima. Est-ce que tu veux me parler d'autre chose, Benji?
Non.
Non.
Voilà. Non, mais peut-être pour rebondir quand même sur Planet Unknown, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié de le jouer en physique. Je pense qu'il vaut plus la peine en physique à plusieurs pour le coup, et sur BGA à deux, je pense que BGA remplit très bien le job. Mais vous avez pas le système de à deux joueurs, vous ne choisissez pas les tuiles que vous prenez, comme disait Maski pendant l'explication de la règle, le truc tourne automatiquement et donc il y a moins cette nécessité de regarder le jeu des autres, ouais. Ce que je trouve toujours un peu plus compliqué, surtout en tour par tour sur BGA. Donc je pense que je vais continuer à jouer à deux joueurs sur BGA. Par contre à plusieurs, j'ai vraiment adoré l'expérience aujourd'hui. Ouais, et en plus ce qu'on s'était dit, c'est que vous le jouiez à 2, 3, 4, 5 ou 6, le temps de jeu est quasiment le même puisqu'on joue en simultané, on place notre tuile, et ça c'est vraiment une bonne chose. Il n'y en a pas tant que ça des jeux à 6 qui se jouent en simultané de manière aussi fluide.
Mais t'as pas eu l'impression par rapport à BGA que c'était un peu plus brouillon? Enfin, tu sais, les combos sur les pistes, moi au bout d'un moment je pouvais avancer sur 4 pistes, puis après ça me faisait avancer sur... Enfin,
ouais, c'est pour ça que t'as fait beaucoup de points finalement.
Si ça se trouve les règles n'étaient pas bonnes, hein, ça, je sais pas.
Non, mais alors bien sûr, c'est sûr que BGA le fait automatiquement, tu oublies rien et puis tu fais rien de plus, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Peut-être que j'ai fait moins de combos que toi aussi. Mais,
c'est ça.
Ça m'a pas ça. Gêné. Ça m'a pas gêné.
Parce que t'as fini dernier, oui,
Non, mais je pense que c'était aussi une première partie parce que finalement, il n'y a pas tant que ça et on peut rajouter hein, certains éléments. C'est vrai que là, on a joué avec un plateau de base, donc il y a pas mal de choses dans la boîte. Le plateau, on en a déjà parlé, le plateau tournant, c'est vraiment un gros truc bien mastoc en plastique. C'est pas incroyable, mais ça fait vraiment le job. Ouais, je pense que ça fait partie du concept du jeu. Ça serait assez plaisant avec des plateaux double couche pour éviter justement que tous nos...
Il faut la version de luxe.
Ouais, il faut la version de luxe.
Mais le double couche ne va pas réparer le problème des tuiles qui glissent parce que...
Ah non, c'est pas...
Si, je pense que ton plateau planète est aussi double couche.
Oui, mais... Si t'as un L, il va pas avoir entre les...
Ah non, effectivement. Non, mais ça sortira pas du cadre.
Oui, alors ça c'est clair.
Mais très bon jeu, j'ai beaucoup aimé. J'ai envie même d'y rejouer en vrai. C'est vrai que sur BGA c'est plaisant. Donc, Planet Unknown, très bon jeu.
I agree.
Malgré l'espace.
Et puis vos sensations de ce deuxième Ludesco pour toi, Benji?
Alors toujours aussi cool, c'est très impressionnant de voir le monde qu'il y a, hein. C'est-à-dire que nous on est arrivé à 10h15 à peu près avec Mathieu. Pour le coup il y avait encore beaucoup de place, on a pu prendre la même table que l'année dernière. Merci à Ludesco de nous avoir bloqué cette table. Mais c'est vrai que dès 13h pour le coup il y avait nettement plus de monde et à 14h il y avait plus de table. Et cette année j'ai trouvé que c'était encore plus impressionnant que l'année dernière. Les gens sont même venus se serrer sur la table où il y avait tout le matos du podcast, tellement c'était l'enfer. Donc c'est vrai qu'entre 14h et je pense 18h à peu près le hall est plein à craquer. Et puis c'est peut-être un peu compliqué pour les familles qui s'imaginent venir le samedi après-midi par exemple, parce que si tu arrives à cette heure-là, en fait il n'y a plus aucune possibilité de te poser pour
surtout
jouer.
Surtout pour une famille.
Ouais, c'est ça. Mais tant mieux parce que ça montre le succès du festival. Et puis là voilà, c'est quand même beaucoup plus aéré. Il y a moins de foule qu'il y avait tout à l'heure. Donc il est quasiment 22h. Et c'est super agréable, hein. On peut manger ici, la bière est bonne. Il y avait des food trucks encore à l'extérieur qui étaient top. On a eu un peu peur en arrivant parce qu'il faisait un temps pourri et on s'est dit, allez pauvres, ils prévoient quand même beaucoup d'activités d'extérieur que dont nous on profite pas du tout. Et puis finalement, heureusement pour eux, le temps s'est un peu amélioré à partir de la fin de matinée. Donc non, c'est vraiment un très beau festival, c'est un festival que je trouve familial malgré tout. Donc vous pouvez venir en famille, on a vu des bébés, on a vu des joutus bébés, des futurs joutus. Mais il y a aussi des très gros jeux experts et des très gros joueurs experts qui s'amusent. On a vu un Ibris sorti tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Il y avait juste à côté de nous, effectivement. Donc il y a la ludothèque de Ludesco est assez impressionnante. Il disait 1800 jeux. C'est des jeux qui sont remis à jour. Hein. On a retrouvé beaucoup de nouveautés entre cette année et l'année dernière. Donc encore une fois une excellente journée. On s'est bien marré. On a été très bien accompagné par Mims, entre autres bien sûr, mais notamment par Mims. Et puis,
on dirait presque un reportage sur le terrain.
Et je suis à l'UDESCO. Ouais. David, à vous.
À vous les studios.
Qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'as tout dit.
C'est ouais, t'as tout dit.
Benji en direct avec toi, préparé ton texte. Alors, c'est incroyable.
Et je me demande si t'as pas dit exactement la même chose l'année dernière.
Ouais, c'est ça. C'est et puis toi, Noémie, toi, t'as vécu différemment. Bon, pas cette année, mais t'as déjà été bénévole ici. Il y a quoi, 2 ans maintenant?
Oui. Alors l'année passée et puis l'année d'avant. Mais alors c'est clair que cette année, c'est quand même vachement contraignant si tu viens bosser à l'explication de jeu le samedi.
C'est clair.
Enfin, je sais pas comment ils font, quoi. Il faut retrouver les jeux. Là, on
mais
les voyait courir dans les.
Ils cherchent des gens chaque année, donc il faut aussi dire que c'est trop bien et puis
alors,
il n'est pas.
Oui, il y a plein d'autres jobs d'ailleurs. Il n'y a pas que explication de jeu. Hein. Il y a au bar.
Mais il y a plus de 200 bénévoles.
Ouais.
C'est fou.
Non, c'est clair. Puis il y a tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après le festival. Donc,
bien sûr.
C'est clair qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Ils sont très sympathiques. En plus, ils vous offrent l'entrée, un repas. Donc, non, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très, très chouette. Toujours un plaisir.
Et puis, merci à vous d'avoir écouté cet épisode spécial l'UDESCO. Hein. Donc, je parle à nos auditeurs et non à toi, Benji, que je regarde dans les yeux.
Et puis, avant de finir. De rien, je t'en prie.
Je voulais qu'on profite d'avoir la présence de Mims pour qu'on parle de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Qui Mims va donc rejoindre la chaîne On Joue-tu d'une façon un peu par la bande, maintenant sur le podcast. À partir de la saison 7, tu vas prendre un peu le contrôle des mini-zodes.
Exactement, ouais.
Ce qui fait plaisir parce que moi, ça fait quand même 6 saisons.
Ça va enfin saisons.
Bien. ça va être différent, ce qui peut-être est le temps. Après 5 saisons de la même formule, de les top 5, Mims va en faire quelque chose de très bien, j'en suis sûr. Et puis en plus, deuxième casquette, Community Manager.
Community Manager.
Payé pour tout ça?
La promotion, bien sûr. Bien sûr que je suis payé.
Évidemment. Fais le tour.
Bon, Benji, on monte un autre podcast, quoi. Qu'est-ce qu'on fait?
Tu joues, toi?
tu joues, toi, bien. Donc, ça fait plaisir, mais merci, Mims.
Merci à toi, Mathieu. Merci à vous.
Merci, avec plaisir. Quel bonheur.
On ne vous a pas demandé votre avis, mais voilà.
Ouais, c'est ça. C'est quand même moi le patron. Alors, on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de
On Joue-tu.
Point d'exclamation. Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. L'équipe On Joue-tu aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires, donc au Québec, la boutique La Pioche, en Suisse, la boutique Les 400 Coups, et ainsi qu'en France et en Belgique, la boutique Ludotrotter. Donc merci beaucoup Harry, on vous invite à vous rendre sur place si vous avez besoin de conseils sur des différents achats de jeux dans ces différents secteurs.